Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Les vraies voix avec notre grand président de l'Institut de la Parole, auteur d'un excellent livre d'aphorismes, Libre propos d'un inclassable, publié à la Nouvelle Librairie. Bonsoir Philippe Bilger.
Bonsoir mon cher Philippe.
Françoise Debois.
Et moi alors, tu me dis pas bonsoir ? Tu nous dis pas bonsoir, tu dis bonsoir mon cher Philippe et nous on meurt, c'est ça ?
Bah, il va à l'essentiel.
Mais je peux pas entendre ça.
Vous l'avez entendu, Françoise Degois, dernière éditorialiste de gauche
c'est
du
vrai.
PAF, à l'entendre.
C'est ça. On peut quand même. C'est pas à m'entendre, c'est la réalité en fait. On n'est plus très nombreux, mais la gauche reviendra un jour, avant qu'on soit six pieds sous terre.
Éditorialiste Sud Radio et LCI, et un petit nouveau, Christophe Madrol. Vous êtes déjà passé dans les vraies voies, mais pas comme chroniqueur. Christophe Madrol, vice-président de la région Sud. Sur Sud Radio, ça rime, et président de l'UCE, l'Union des centristes et écologistes. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Philippe, bonsoir Françoise, bonsoir
Salut
Philippe.
Salut Christophe, plaisir de retrouver
pas trop
Christophe.
Bonsoir,
amoureux,
Christophe.
Amoureux de l'environnement.
Oui, mais qui non, s'occupe mais... notamment de l'environnement à la région PACA.
Oui, un complice de Françoise, puisqu'on a eu des combats communs dans une autre, dans quand le monde était différent.
Mais dans le monde de Ségolène Royal, il y avait des choses à faire.
Oui, ils étaient royalistes et ils sont devenus républicains. Nos deux grands débats.
Ça commence fort.
Tu te mets tout de suite au jus. Ah ouais. C'est deux heures comme ça, c'est épuisant en fait.
2h20.
Et puis tu es fourbe en plus.
Nos deux grands débats. À 17h30, Montebourg appelle un candidat commun de la gauche. Est-ce réaliste ? Vous voulez réagir, le 0826-300-300 et les réseaux sociaux. Et pour le moment, vous êtes 80,7% à dire non sur Twitter. Enfin, à 18h30, notre grand débat. Vous avez vu le dernier sondage Elab. Pour la première fois, Emmanuel Macron ne serait pas réélu par le président de la République.
C'est ça.
Ce serait Valérie Pécresse avec 52% des voix. Sondage Elab, Emmanuel Macron risque-t-il de ne pas être réélu ? Et je le répète, vous voulez réagir, le 0826-300-300 et les réseaux sociaux. Les vraies voix, j'ai envie de commencer par de la bonne humeur ce mercredi. Est-ce que vous êtes partant ?
Oh, oui. Toujours.
Tant mieux.
Et puis ça permettra de décontracter notre ami Christophe. Oh, c'est
sa première.
Il est très tendu.
Pour tout te dire, Philippe, je sors du salon nautique où j'ai goûté du rhum guadeloupéen.
Oui.
Et je salue Madame Zaza du salon nautique. Très bon rhum.
Ah. J'adore Zaza.
Zaza, vous auriez pu nous en amener une bouteille.
Elle m'a dit de saluer les Guadeloupéens sur Sud Radio. Donc je salue les Guadeloupéens.
Les Martiniquais, les Guyanais, les Calédoniens, les Polynésiens.
Particulièrement les Guadeloupéens. En ce moment.
Oui, les Réunionnais, ceux de Saint-Pierre et Miquelon aussi, tous nos hommes-tomes, on les salue. Mais on les a salués déjà, la Polynésie.
Et là, ça y est, c'est fait.
Absolument,
très bien.
C'est
et la Nouvelle-Calédonie qui va rester aussi. Française aussi, c'est bien.
Ça, on l'espère.
Oui.
Alors, les amis, j'ai envie de commencer dans la bonne humeur parce que hier ont été remis les prix de l'humour politique. Alors, on va les voir
T'es
entre nous, d'accord ?
C'est sûr que c'est pas vous qui l'avez eu.
Non, mais moi, je suis pas politique. Il y a que les politiques qui sont récompensés.
Mais...
Alors, je vais vous donner déjà les prix des internautes. Jean Castex, Premier ministre. Moins nous alimentons les polémiques autoportées, mieux nous nous portons. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oh la vache.
Pas mal, hein ?
C'est du Castex.
Ouais, oui. Ça fait un peu, tu sais, la pentée rude et
voilà.
Comment c'était, Raffarin déjà
La pentée droite, mais la pentée forte, mais
vois,
la route est droite.
La pentée rude, il y avait aussi...
La route est droite, mais la pentée forte.
Il y avait le non a besoin du oui pour gagner, le oui a besoin the needs, the needs, the yes, yes the needs, note, no to the win.
C'était une Raffarinade, donc, mais castexienne.
Non, ça c'était...
Oui, mais attendez, Raffarin a eu un prix. Vous allez voir aussi.
Oui.
Et l'autre prix des internautes ex aequo, c'est Pierre Charron. Je crois que Philippe Bilger le connaît bien, sénateur.
Ah ben oui.
Qui a dit sur
le
Xavier...
mot est très bon.
Oui, Xavier Bertrand voulait être hypersonique. Il est subsonique. Il n'a pas passé le mur du son. Je trouvais que c'était
sympathique.
Excellent.
Sympathique, Philippe. Tes amis de droite là,
ils sont sympas. Hein.
Ils sont sympas contre eux, dis-moi.
Alors,
j'ai une grande tolérance pour ceux qui ont de l'esprit et Charron en a manière surabondante.
Alors, Nicolas Dupont-Aignan a eu le prix du jury, celle-là je la trouve excellente. Je suis fort chez les gens qui sont à la limite du vote. Le problème, c'est qu'il faut être fort chez les gens qui votent. Ceux qui sont à la limite qui votent pas, ça n'a strictement aucun intérêt.
Ils ont fumé cette année. Hein. Non, non, mais ça, vraiment.
Prix, alors la révélation de l'année, vous allez être content, c'est une écologiste, bon, pas du même bord que vous, Sandrine Rousseau.
Oh non, ça ne s'invente pas. Je vous en prie, Philippe, ne me comparez pas à Sandrine Rousseau. Je ne peux pas supporter Sandrine Rousseau.
Je vise avec un homme déconstruit et je suis super heureuse. C'est quoi un homme déconstruit? C'est un plénobile qu'on démonte?
Non, c'est pas. C'est un homme qui est devenu très féministe, qui a déconstruit lui-même tout ce qu'il a appris quand il était petit.
Donc, qui ne regarde pas un match de foot avec une bière
c'est
et une pizza.
Pas sûr, non, non, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui a un vrai respect des femmes. Moi, j'ai bien compris cette phrase. Après, je ne suis pas une adepte des Verts, je ne vote pas Vert, mais je trouve qu'on en a fait des caisses sur cette phrase que je comprends alors, très bien.
Alors, une autre
vous
phrase.
Vous la traduisez à la perfection.
Le problème, c'est qu'elle aurait. Alors, ça aurait été bien qu'elle la traduise.
Je comprends, François, je suis content d'être là, parce que je comprends enfin la phrase de Sandrine Rousseau.
Merci d'avoir traduit. Le prix
vous
du jeu.
Vous devriez être porte-parole. Je crois que Yannick Jadot cherche une porte-parole encore là.
Il en aurait besoin.
Non, il y a mon ami. Il y a notre ami Delphine Bateau, mais je ne suis pas sûr.
Notre ami Delphine Bateau.
Alors, les vraies voix. Le prix du jeu de Mio, parce que c'est Jean Mio qui avait créé le prix, c'est Jean-Pierre Raffarin qui a gagné. Celle-là, je la trouve très bonne et elle est très intéressante. Quand la droite se durcit, elle se rétrécit.
Non, non, mais ça, oui.
Vous pouvez
ça,
commenter, Françoise, je vous
compris.
Laisse.
Alors, mais elle se durcit, donc elle se rétrécit. C'est-à-dire que si la droite devient de l'extrême droite, évidemment, elle fait 9% pour François
Mais excusez-moi, quand j'entends se durcit, se rétrécit, je trouve ça un peu douteux. Mais bon, passons. Le prix de la récidive.
Je pense qu'il faudrait que tu te déconstruises, Philippe.
Alors, justement, François Hollande a gagné un prix. Vous allez être contente, le prix de la récidive.
Ah, bah oui, mais parce que.
Alors, celle-là, elle est excellente. Michel Barnier a un côté prince charmant. Pour les maisons de retraite.
J'adore.
On pense que Michel Barnier a apprécié.
Emmanuel... vous savez ce que disait Jospin? Vraiment, Jospin, en permanence, disait à Hollande, ton humour te perdra. Parce qu'en plus, il faisait de l'humour avec Jospin qui avait un... Tu sais, Jospin, il rit quand il se brûle, en gros. Hein, tu vois, à peu près.
Une fois tous les 36 du mois.
Voilà, voilà. Mais non, non, c'est vrai qu'il a un humour féroce, Hollande. Très drôle.
Alors, le prix Sigmund Freud. Là, c'est psychanalytique. C'est Emmanuel Macron qui a gagné à une agricultrice. Il dit, la réforme des retraites, on fera cela quand on tombera les masques. C'est intéressant.
Philippe Bilger, ça vous dit quoi? Moi, je
Philippe
crois,
Bilger, ça vous inspire quoi?
J'arrive pas à traduire.
Ça veut dire qu'on ne la fera pas.
Pour moi, c'est clair. Il est démasqué. Alors, maintenant, on arrive dans le top 3. Le prix de l'encouragement pour Audrey Pulvar. Ce qui se passe avec les votes extrêmes et l'abstention, c'est la traduction concrète des effets du réchauffement climatique. Comme on a un écologiste avec nous, c'est très
alors
fort.
Là, lire dans la pensée d'Audrey Pulvar, c'est très difficile. Je ne vous cache pas, c'est comme dans la tête de Sandrine Rousseau. J'ai du mal à me déconstruire pour comprendre la pensée d'Audrey Pulvar. En fait.
C'est une pensée complexe, comme
non,
celle d'Emmanuel Macron.
Je la comprends, je comprends ce qu'elle veut dire. Elle fait un problème de raccourci, c'est-à-dire que, en gros, le réchauffement climatique, etc., c'est les thèmes qui intéressent le plus la jeunesse. Les 18-30 ans sont ceux qui sont absolument... et c'est ces 18-30 ans-là qui ne vont pas voter, parce qu'il n'y a pas de candidat qui porte quelque chose là-dessus.
Mais moi, cette phrase, j'avoue, je n'ai rien compris. Alors là, avant-dernière marche du podium, pour Roselyne Bachelot...
Non,
non plus, mais
non,
c'est pas
non,
grave.
Non, non, ne fais pas semblant.
Françoise, vous auriez dû être journaliste.
Alors, Roselyne Bachelot, là, on a l'avant-dernière marche du podium. Je cite, comme disait mon grand-père, mieux vaut avoir des gens dans sa tente et qui pissent dehors que l'inverse.
Ouais, alors,
c'est original.
Non, c'est un grand classique de la politique, hein, parce que c'était Michel Sapin qui disait ça aussi à Bourbeau de Ségolène Royal. Elle va nous faire chier et pisser dans la tente. T'imagines, mais c'est élégant.
C'était sympathique. Alors, c'est par contre, la médaille d'or. Elle s'est passée sur Sud Radio, dans le Grand Matin, avec Patrick Roger et Cécile de Ménibus. On écoute l'extrait.
Si vous permettez, je veux préciser, parce qu'il y a toujours des commentaires, des gens qui ne comprennent pas de quoi on parle. L'infidélité, le polyamour, les troubles, les plans à trois, tout ça, ça reste autorisé. Je le dis parce qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux qui nous disent à chaque fois, vous légiférez sur notre vie personnelle.
Sur les plans à trois, notamment.
Je vous rassure. Je ne sais pas. Ouais.
Bon, alors vous avez entendu, Philippe Bilger, Patrick Roger est rassuré sur les plans à trois. Vous me disiez dans le casque que Philippe Bilger a trois petits joueurs. Vous pouvez développer.
Il n'a pas dit ça. Parce
que non, c'est Philippe Bilger m'a dit ça dans le casque.
Non, mais pas du tout, au contraire.
Mais il raconte n'importe quoi, mais ne vous laissez
pas. Mais non, c'est pas mon genre de raconter n'importe quoi,
non,
excusez-moi.
Non, pas du tout, Non, non, alors, c'est même ta marque de fabrique. Alors,
donc là, le prix, c'est pour Marlène
Schiappa. Patrick fait ça à deux dans l'excellence.
Ah oh bah vous êtes bien au courant, on dirait.
C'est bizarre, pourquoi il est au courant comme ça?
Mais pourquoi il a parlé de ça? Pourquoi Marine Chapin a parlé de ça?
Ah ben bah c'était dans l'interview politique du matin.
Parce qu'il y avait... Non mais voilà, écoute...
C'est étonnant. Alors donc, on est content parce que le prix Presse Club Humour et Politique 2021 a été gagné lors d'une interview sur Sud Radio. Oui. Et c'est Marlène Schiappa qui l'a gagné.
Et c'est vrai que Patrick Roger était un peu rougissant parce que c'est bizarre. Dans
et, la remise du prix, c'est aux chandelles?
Oh, ah non, c'était hier soir au Presse Club.
Ah, un autre lieu bien fréquenté.
En tout cas, je salue Marlène Schiappa, mais je salue surtout son père qui est un grand soutien de Jean-Luc Mélenchon. Oui. Son père est un grand philosophe, il est spécialiste. Son père, le Jean-Marie Schiappa, le père de Marlène Schiappa, est un homme de la gauche extrême et grand spécialiste de Gracchus Babeuf. Il faut le savoir.
Alors, je vais vous dire une chose, quand Marlène Schiappa a prononcé cette phrase, elle était à votre place.
C'est bien. Et alors, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse?
C'était pour vous dire que vous êtes à la place de la personne qui a gagné le Grand Prix Presse Club de l'humour politique.
Ouais, dis donc. Je crois que ça s'attrape.
Et bien, ce sera peut-être pour l'an prochain.
Bah, j'espère les pas, parce que alors, dis donc, gagner cette connerie, alors... Les non, mais vraiment, c'est une connerie.
Oh,
hein.
Mais c'est très drôle, les phrases qu'il y a, excusez-moi.
Oui, mais la gagner, c'est pas très génial.
Les vraies voix, 17h14 à 17h30, notre premier débat. Montebourg appelle un candidat commun de la gauche. Est-ce réaliste? Vous êtes 80,4% à dire non. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.
Les filles du mercredi ont délaissé leur poupée. Cheveux bruns, cheveux blonds, jusqu'à midi entremêlés.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe.
Est-ce qu'on peut finir notre conversation tranquillement sans que tu nous interrompes pour faire une émission?
Mais non.
On est en plein débat sur est-ce que Emmanuel Macron est battable?
Ce sera le débat de 18h30.
Eh ben, alors gardez vos arguments.
Non, le chef c'est moi.
Ah oui, c'est
un chef c'est fait pour faire chier.
Pas fait chier. Pas fait chier. Pas fait chier. Pas fessé. Fessé. Fessé.
C'est l'heure des tours de table de l'actualité.
Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table.
Tout de suite, là. Ça a commencé?
Oui.
L'émission a commencé?
C'est ce que je viens de dire.
Excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé.
Ah, d'accord.
Le tour de table.
De l'actualité.
Et ça commence avec vous, Philippe Bilger. Vous êtes en désaccord avec le canard enchaîné.
Ah. Le canard que j'aime beaucoup par ailleurs, indique que, si je me rappelle bien, la droite est dans un risque de collusion avec l'extrême droite. Le sujet que j'ai choisi ce matin me plaît, si j'ose dire, d'autant plus que j'ai lu dans le même canard une phrase d'Emmanuel Macron qui dit en gros que deux candidats et demi de droite sont d'extrême droite parce que la moitié qui reste sera sous le contrôle de Ciotti. Alors je ne suis pas du tout d'accord parce qu'en réalité ça devient une extrême facilité que de qualifier d'extrême droite tout ce qui s'oppose à vous et qui est peut-être une opposition enfin valable. Je pense qu'il y a une droite de gouvernement. Il me semble que la droite que représente Valérie Pécresse, j'aurais dit la même chose hier de Xavier Bertrand, est une droite qui certainement a une conception rigoureuse de la justice et de la sécurité notamment, mais qu'elle n'a rien à voir avec l'extrême droite telle que je l'ai entendue chez Éric Zemmour et même chez une Marine Le Pen qui s'est attiédie. Donc j'en ai assez, on n'attend pas mon jugement là-dessus, pour qu'on se facilite en permanence, à cause d'une pauvreté du vocabulaire politique, la tâche en qualifiant d'extrême droite tout ce qu'on ne parvient pas à accepter dans son intégrité et son identité naturelle.
Françoise Le Goy.
Absolument d'accord. De toute façon, ça c'est la réflexion des fainéants de l'Élysée, avec l'espoir absolu que le tandem Ciotti et que Valérie Pécresse soient sous contrôle de Ciotti. Je pense que cet espoir est terminé, il est mort. La façon dont elle a géré la séquence Ciotti me fait penser qu'elle a quand même une grande maestria politique, elle n'a pas fait d'erreur. Voilà, je pense que c'est panique à l'Élysée, on en reparlera tout à l'heure, mais pour la première fois, Emmanuel Macron est à portée de tir, il est battable, et ça, psychologiquement, dans l'opinion, ça dit beaucoup de choses. Et ils avaient calculé absolument tout avec les épouvantails, les diables de la République, les deux diables qui étaient Zemmour et Marine Le Pen, et là, malheureusement, les deux diables sont out, et ils le sont, je pense, pour longtemps.
Christophe Madrol, vous êtes d'accord avec Philippe Bilger ?
Oui, en grande partie. C'est vrai que Valérie Pécresse a commencé sa campagne d'une manière assez, assez intéressante et assez intelligente. D'abord, comme dit Françoise, la Macronie ne s'attendait pas à que Valérie Pécresse sorte du chapeau. Ils avaient tout préparé pour une éventualité de Xavier Bertrand, voire Michel Barnier.
Ou Ciotti, ça les aurait sorti. Alors,
Ciotti, ça aurait été le summum, etc. Il y a aujourd'hui le pari de Valérie Pécresse, c'est rassembler la droite. Et on le voit. Est-ce que la droite, et là-dessus, Philippe, je ne partage pas forcément ta position par rapport à la droite la plus, zémouriste, puisque une partie de la droite peut être intéressée par le discours, de Zemmour au futur présidentiel. Ceux qui ont les 31% d'électeurs de la droite qui ont soutenu Ciotti, quand même, Éric Ciotti, que je connais bien, qui vit dans ma région sud, c'est pas un tendre, c'est pas la droite républicaine telle qu'on la connaît avec Valérie Pécresse ou avec Xavier Bertrand. C'est pas la droite sociale, c'est pas la droite chiracienne. Si Renaud Muselier a claqué la porte de LR, c'est qu'il y a des raisons objectives sur une certaine droite sur laquelle les gens de droite ne se reconnaissent pas. Donc le pari de Valérie Pécresse, c'est de rassembler. Aujourd'hui, je ne lis pas dans le Mar de Café, mais je pense qu'elle a fait un bon début de campagne.
Maintenant, c'est votre tour, parce qu'on est un peu en retard.
Ben, c'est vrai.
Tour de table de l'actualité de Christophe Madrol voulait parler de Macron à Vichy.
Oui, parce que moi, il y a un sujet qui m'anime depuis quelques mois, c'est en parcourant beaucoup les territoires français, mais aussi à l'international, c'est la position de la France sur les grandes thématiques. La France a été un pays qui a, entre guillemets, été présent dans de nombreux continents. Nous avons nous avons fait les Lumières, nous avons coupé la tête de notre roi, nous avons porté des valeurs fortes, la laïcité, nous portons encore des valeurs sur la protection des femmes, sur la protection des homosexuels, sur des valeurs qui sont très importantes. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que pour des raisons financières, des raisons économiques, on met nos valeurs dans notre poche et on est en train de perdre notre identité de qu'est-ce qui fait la France. Évidemment, à ce moment-là, le débat est ouvert. Qu'est-ce qui fait France aujourd'hui ? Quelles sont les valeurs que nous partageons ? Est-ce qu'il y a effectivement un risque lié à l'immigration ? Est-ce qu'il y a ce fameux grand remplacement ? Est-ce que c'est un fantasme zémourien de l'extrême droite ? Ou est-ce qu'il y a une réalité ? Quand j'entends la plupart des penseurs, de nos penseurs, ils se disent que cette question de grand remplacement, ça n'existe pas. La question des migrations, ça a toujours existé. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, et ce que je souhaite qu'Emmanuel Macron porte, c'est qu'est-ce qui fait France ? Quelles sont les valeurs de la France que nous partageons ? La laïcité, ça doit être porté fortement partout dans l'éducation nationale.
Quand je vois vous la choisissez question bien le jour, l'anniversaire de la loi sur la laïcité, c'est le 9 décembre, on est le 8.
On est le 8. La question de l'éducation nationale, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Qu'est-ce que nous portons comme discours vis-à-vis de l'éducation nationale ? Comment nous protégeons nos enseignants ? Comment nous protégeons nos forces de police ? Comment nous protégeons nos infirmières, nos médecins ? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'avoir un projet fédérateur, un programme fédérateur pour la France ?
Philippe Bilger.
Christophe, votre intervention, évidemment, est pétrie de cet humanisme dont j'ai déjà pu prendre la mesure la dernière fois que vous y étiez venu. Je ne veux pas fuir le débat que vous proposez, mais aujourd'hui, je dirais que ce qui fait la France, c'est précisément la France. Et ça n'est pas exclusif des valeurs universelles que vous prenez, mais il me semble qu'aujourd'hui, ce qui fait France, pour moi en tout cas, et ça ne renvoie pas forcément à la même conception de la France que tous ceux dont vous avez parlé, c'est, j'allais dire, la certitude que notre pays est ce à partir de quoi on peut construire l'avenir.
Françoise Legault, en une minute.
Oui, j'entends ce que dit Christophe, je peux signer dès demain, mais après, demander ça à Emmanuel Macron qui n'a eu cesse de souffler le chaud et le froid, de fracturer cette France, d'avoir une telle arrogance par rapport à tous ces mouvements, je pense bien sûr aux Gilets jaunes, mais pas simplement, de si peu comprendre et connaître la France, je pense que c'est pour lui une mission absolument impossible, voilà.
Les vraies voix, 17h26, dans quelques instants, notre premier débat, il va faire plaisir à Françoise Degout, on va parler de la gauche. Montebourg appelle à un candidat commun de la gauche, est-ce réaliste ? Vous êtes 80,7% à dire non.
Ah bah ça va, il y a 20%, c'est pas mal. 20%, on est au second tour.
19,3%.
Bah on est au second tour, quasiment.
Vous voulez réagir ?
Allez, montez le standard,
300 et les réseaux sociaux.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
La porte du bonheur est une porte étroite. On m'affirme aujourd'hui que c'est la porte à droite.
Un artiste de gauche, Jean Ferrat. C'est une chanson qui a une petite quarantaine d'années, 84 de mémoire. Les sondages se suivent et se ressemblent et ont tous un point commun. Jamais un candidat de gauche n'est susceptible d'atteindre le second tour de la présidentielle. Le mieux placé, Jean-Luc Mélenchon, étant autour de 10% selon les sondeurs. Pire, si on additionne les voix de la gauche et de l'extrême gauche, c'est environ 25% du corps électoral qui vote aujourd'hui pour ce côté de l'échiquier politique. Et 25%, c'est loin de faire une majorité. Arnaud Montebourg a d'ailleurs appelé hier dans Libération, je cite, « à l'unification des forces de gauche autour d'un candidat commun ». Un vœu peut-être pieux, si on croit aux gauches irréconciliables décrites par Manuel Valls, d'où notre premier débat. Montebourg appelle un candidat commun de la gauche à se réaliste, ça a progressé. Vous êtes désormais 80,6% à dire non. Avec nous, Rémi Lefebvre, politologue et professeur des universités. Bonsoir.
Bonsoir.
Il y a 25 ans, quand on regarde le sondage, il y avait la gauche plurielle. Aujourd'hui, il y a la gauche plus rien.
Vous m'entendez là ?
Oui, bon, très bien.
Ok, bah pff, la situation est pas comparable à mon avis. Le système politique est beaucoup plus fragmenté. Je pense que la droitisation du débat public n'a jamais été aussi forte. Je crois beaucoup moins par contre à la droitisation de la société. Je pense que la société est beaucoup moins à droite qu'on ne le croit. Hein. Quand on regarde par exemple les enquêtes d'opinion, on voit que les items autour du pouvoir d'achat, des injustices, des inégalités est bien plus élevé, bien plus présent que les thématiques d'immigration, de nation ou de sécurité, globalement. Mais je pense aussi que la gauche vit une période de déclin et de décomposition historique. Peut-être que la gauche va disparaître ou s'effacer. C'est possible. Je pense qu'elle est victime de plein de choses. Elle est victime du fait que l'image de la gauche a été très sérieusement abîmée par le mandat de François Hollande. La gauche est victime de corporatisme d'appareil, c'est-à-dire de fait que finalement beaucoup des partis là qui se présentent aux élections présidentielles ne pensent pas du tout aux élections présidentielles, mais pensent aux élections législatives, c'est-à-dire qu'ils ne jouent pas du tout la gagne, mais ils jouent la survie de leur organisation. Cette gauche, effectivement, elle est dans une dynamique d'autodestruction. Et effectivement, moi, je suis assez pessimiste. Je vois pas trop comment aujourd'hui, après l'échec des tentatives de primaire, l'échec de la primaire populaire, un sursaut soit possible. Hein. Je pense que la question de, je terminerai là pour l'instant, je pense que la question de la désunion est un énorme problème, mais c'est bien plus grave que ça. C'est-à-dire que la gauche aussi a un problème idéologique. Elle n'a pas grand-chose à proposer et à raconter. Et effectivement, elle est totalement effacée par la droitisation du débat public aujourd'hui.
Philippe Bilger.
Quand j'ai appris ce matin que Arnaud Montebourg risquait de jeter l'éponge, j'ai vraiment été triste. Non seulement parce qu'Arnaud Montebourg est un ami, mais parce que je pense qu'il a un talent, une intelligence qui aurait pu apporter beaucoup à la gauche. Je me demande si paradoxalement il n'a pas eu sur beaucoup de plans raison trop tôt et qu'au lieu de le créditer de sa lucidité, on ne l'en a pas blâmé. Alors aujourd'hui, bien sûr, il me fait penser par sa démarche délicieusement pathétique à le personnage qu'évoquait Marcel Proust, les idées succèdent d'années des chagrins. Comme lui-même ne peut plus espérer se présenter seul malgré les attentes qu'il a suscitées, il propose une union de la gauche, mais qui est quasiment inconcevable aujourd'hui.
Rémi Lefebvre.
Oui ?
Oui, pour répondre à Philippe Bilger.
Bah, écoutez, j'ai lu attentivement cette interview. Je ne sais pas si en fait il s'efface, hein. C'est-à-dire qu'il appelle à une unification de la gauche, donc c'est très incantatoire. Bon, moi, sur le constat, il a évidemment raison, mais j'ai pas l'impression qu'il décide de se retirer de la course. Et c'est pour ça que c'est toujours un peu paradoxal ce type de déclaration, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, il prend acte du fait que il faut qu'il y ait moins de candidats et d'unification des candidats. Hein. Il évoque une convergence avec Fabien Roussel, dont il dit qu'il se sent très proche, mais en même temps, voilà. Il ne définit pas vraiment de méthode. C'est-à-dire comment on pourrait réduire le nombre de candidats aujourd'hui ? Bon, on parle beaucoup, on spécule beaucoup sur un désistement d'Anne Hidalgo. Bon, je pense que pour l'instant, il n'est pas encore à l'ordre du jour. Bon, la campagne aussi, il faut faire attention, la campagne démarre. Hein, et je pense que la campagne va véritablement commencer en janvier, si la crise sanitaire d'ailleurs permet véritablement d'entrer en campagne. Il y a quand même une hypothèque qui est très très forte là-dessus, et je pense que la décantation va se produire sans doute en janvier à gauche. Moi, ce que je pense, mais peut-être que je me trompe, l'hypothèse, c'est qu'il va y avoir une primaire par les sondages et qu'à un moment donné, un candidat à gauche va rafler la mise. Alors, est-ce que c'est Jadot qui va siphonner le peu de voix qu'a pour l'instant dans les sondages Anne Hidalgo? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, qui avait réussi cette prouesse en 2017 de devenir le débouché, le vote utile des électeurs de gauche à partir de fin janvier, si mes souvenirs sont bons, va réussir le même exploit, hein? C'est son calcul, hein? C'est-à-dire que Mélenchon pense que il va finir par fédérer la gauche, même si les gens n'aiment plus trop Mélenchon.
Françoise Degoy.
Oui, alors moi, j'ai pas du tout ce pessimisme, pas du tout. Je suis très gramscienne, hein, je veux dire, j'ai le désespoir, mais j'ai la joie et la raison également, parce que je pense que nous vivons, en tant que femme de gauche, nous vivons exactement ce que les Allemands ont vécu après Schröder. Schröder, les Allemands, la gauche allemande a mis 15 ans à se remettre de Schröder, de ses lois travail. Voilà, la gauche, bien sûr, la gauche doit se remettre du quinquennat de François Hollande, que je salue au demeurant, car c'est un ami, et j'ai participé à ce quinquennat et j'en étais assez fier. Moi, je ne fais pas partie des gens qui ont trouvé qu'on avait fait tout nul. J'étais au gouvernement et je trouve qu'on n'a pas fait que des choses nulles. Après, je crois à la dynamique d'une campagne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez très bien fait, Rémi Lefebvre, de le rappeler, Jean-Luc Mélenchon, en janvier-février, règle la question en étant le leader naturel qui s'impose. Et on voit que, au fur et à mesure où Benoît Hamon s'enferme dans des batailles d'appareils, de législatives pour savoir qui aura les circonscriptions ou pas, il commence à fondre, parce que je rappelle que Benoît Hamon, il est à 18% hein, quand il est désigné. Oui. C'est énorme. Hein.
Et il finit
voilà.
au tiers.
Et il finit à 5%. Voilà. 6. Alors, est-ce qu'il y a ça? Après, moi, je redis encore une fois que tout est une question de personne. La gauche a toujours eu un problème avec la présidentialisation, mais la réalité, c'est que le bon casting n'est pas là. C'est une question de casting. C'est à un moment donné, il y a quelqu'un qui apparaît et qui met tout le monde d'accord. Ça a été le cas de François Mitterrand. Ça a été aussi le cas de François Hollande en 2012.
De Jospin en 97.
Oui et non, parce que Jospin... Ah oui, en 97, mais c'était pas pareil, c'était une cohabitation. Donc, il n'est pas candidat à la présidentielle.
Mais il faisait l'unité au PS.
Oui, mais d'ailleurs, il échoue en 2012.
Il n'y avait plus
aussi,
personne.
Il échoue sur sa personnalité. Non, non, 97, bah. Non. Il n'y a que lui, parce que...
Si,
mais pas du tout. Il est finaliste de la présidentielle en 95, Jospin. C'est pour ça, il est le leader naturel.
Enfin, il y a plus qu'Emmanueli. Il est candidat contre Emmanueli à la primaire fermée.
Mais c'est pas le problème. Qu'est-ce que vous racontez? Alors, en 95, Jospin est finaliste de la présidentielle. Il est évidemment le leader naturel en 97. Donc c'est pas ça le sujet.
Oui, non, c'était moi, avant. En 95, ça se joue en 95.
Je pense vraiment que rien n'est perdu absolument pour la gauche.
Rémi Lefebvre.
Peut-être pas pour cette élection, mais rien n'est perdu. La gauche va se construire. Il est inimaginable de penser qu'elle va disparaître. Ça, c'est une hérésie.
Rémi Lefebvre et après Christophe Madrolle.
Non, non, je ne pense pas. Alors, j'ai dit tout à l'heure, je ne crois pas du tout que la gauche puisse disparaître,
non,
évidemment.
Bien sûr que non.
Évidemment, c'est un courant, un mouvement philosophique
très
et
profond.
Historique. Et je crois à la régénération du clivage gauche-droite qui est beaucoup moins affaiblie qu'on ne le croit, effectivement. Oui. Mais là, je trouve que la situation, j'ai rarement vu, hein, ça fait 25 ans que j'observe la vie politique, j'ai rarement vu une situation aussi... aussi dramatique pour la gauche. Hein. Elle est dramatique à plein d'égards. La gauche a perdu la bataille culturelle. La société, notre société très fractionnée, individualiste, est très difficile à politiser aujourd'hui. La droitisation du débat public est structurelle. Bon, il y a plein de points d'appui dans la gauche. Moi, je crois, par exemple, que les luttes pour les minorités, si elles sont couplées avec une vraie politique de gauche, la gauche doit être féministe, elle doit être anti-discrimination, elle doit être redistributrice. Et donc, il y a des ferments sur lequel la gauche peut s'appuyer. Moi, je crois, et je terminerai là-dessus, je pense que la gauche ne peut se renaître que s'il y a une recomposition partisane en profondeur.
Christophe.
Il y a trop de partis, il y a trop d'intérêts de partis, et il faut donc que la gauche explose et se recompose sur le plan partisan.
Christophe Madrolle.
Moi, je pense que, bon, pour une fois, je suis en désaccord avec François, je pense que la gauche n'existe plus, parce que la gauche, les leaders de gauche ne s'entendent sur rien. Quel est le programme de la gauche sur l'Europe aujourd'hui? Il y a, entre Yannick Jadot, Hidalgo et Mélenchon, ils ne sont d'accord sur strictement rien. Nous l'avons vu, il y a eu une rencontre il y a deux mois de l'ensemble de la gauche. Mais qu'est-ce qu'on est sorti sur les questions d'Europe? Rien. Sur les questions de politique sanitaire, rien. Sur les questions de politique sécuritaire, rien. La question de la gauche aujourd'hui, politique, elle n'existe plus. Par contre, là où je suis en désaccord avec vous, monsieur le politologue, c'est que moi, je vois...
Rémi Lefebvre.
Rémi, je vois sur le terrain des centaines d'associations qui travaillent autour des questions de l'environnement, des questions du féminisme, des questions de la défense des LGBT, des homosexuels, qui seraient censément un électorat pour la gauche, mais qui sont écœurés qu'il n'y ait pas un leader unique à gauche qui ne se retrouve plus. Donc, ils n'iront pas voter. Aujourd'hui, l'abstention, si on regarde toutes les études, l'abstention majoritaire est à gauche et n'est pas à droite.
Oui, enfin, tout ça, c'est des billevesées. Évidemment que je suis d'accord avec Rémi Lefebvre sur le fait que les grands thèmes, on n'a pas perdu du tout la bataille culturelle. Les grands thèmes sont les thèmes de gauche, y compris l'environnement, vous avez oublié, mais ce thème-là qui fascine les 18-30 ans, c'est l'environnement. Oui. Et ça, c'est fondamental. La gauche sociale, évidemment, est là. Elle doit retrouver son lien avec les classes populaires. Elle va retrouver son lien avec les combats sociétaux, ça, moi, j'en suis absolument persuadé. C'est une question d'incarnation.
Rémi Lefebvre, pour répondre à Christophe Madrolle et à Françoise Degoy, et on part au 0826-300-300.
Moi, je crois que la gauche n'est pas si divisée que ça. C'est-à-dire que c'est pas vrai. La gauche, elle était beaucoup plus divisée dans les années 70 entre le Parti communiste et le Parti socialiste. Ça n'a pas empêché la gauche de gagner. Le Parti socialiste, il était très divisé entre Gérard Filoche et Manuel Valls. François Hollande a gagné en 2012. Sur l'Europe, par exemple, la gauche est beaucoup moins divisée aujourd'hui qu'en 2017. L'environnement est une préoccupation commune. Moi, je pense que c'est un problème effectivement d'incarnation, d'offre politique, mais qu'aujourd'hui, tout n'est pas perdu, ça c'est sûr. Alors évidemment, je suis d'accord, aujourd'hui tous les mouvements là qui régénèrent la gauche, qui sont pas toujours très à gauche, les gilets jaunes, c'était aussi quelque chose qui comportait des vertus, des potentialités de gauche. Effectivement, tous ces mouvements ne s'identifient pas à la gauche. Mais pour moi, la crise de la gauche, c'est une crise d'offre, pas d'offre politique, d'offre partisane, pas une crise de demande de la société.
On part au 0800 26 300 300 direction la Seine-Saint-Denis. Bonsoir Renaud.
Bonsoir Philippe David et bonsoir à votre formidable équipe et je salue bien évidemment l'indispensable Françoise Degoy
son fan club.
Alors je salue également Alexis Poulain également.
Bah qui dans le grand matin avec.
Il est pas là aujourd'hui mais bon.
Je crois qu'il était avec Valérie Expert ce matin il me semble. Ou c'était hier. On est un peu perdu dans les dates.
Il est souvent en matinée avec Valérie Expert exactement.
Également avec Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Alors est-ce que pour vous c'est réaliste l'appel de Montebourg à une candidature unique de gauche?
Je dirais difficile mais pas infaisable. Difficile mais pas infaisable parce que Arnaud Montebourg s'inscrit dans la gauche qui peut intéresser les classes populaires. Je veux dire par là qu'Arnaud Montebourg est quelqu'un qui a pris à bras-le-corps les questions sociales, les injustices sociales. Il a fait comme un travail remarquable depuis de nombreuses années. Moi, je pense à son bouquin sur la démondialisation, etc. Il y a plein de choses intéressantes. Et je pense que Montebourg pourrait tout à fait travailler avec Jean-Luc Mélenchon. Je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. Jean-Luc Mélenchon est crédité, malheureusement pour lui, de 9 à 10% d'intention de vote. Il faut savoir qu'en 2017, je m'en souviens, en 2016 également, il était à peu près à ce niveau-là.
Mais il a fini à 18.
Et ensuite, très très belle surprise, 19,6% au premier tour de l'élection présidentielle. C'était tellement serré au dernier moment qu'on avait un quarté, on ne savait pas dans quel ordre il était. Et ça s'est joué à 400 000 voix près. Jean-Luc Mélenchon aurait très bien pu être présent au second tour.
Il faut être
objectif, hein, qu'on soit de gauche ou pas de droite, peu importe. Il faut reconnaître objectivement que Jean-Luc Mélenchon avait fait une formidable campagne.
Renaud, vous avez dit une chose intéressante, et on va faire répondre Rémi Lefebvre. Pour vous, Montebourg, cet appel, finalement, c'est lui le plus petit multiple commun d'entre Hidalgo, Mélenchon, Jadot et lui, ça pourrait être lui l'homme?
Non, il est pour le nucléaire, ce qui n'est pas Jadot. Non, donc
je pose la question à Renaud, c'est pour vous? Vous pensez que finalement, il prêche pour sa paroisse?
Il faut savoir qu'il y a quand même plusieurs gauches. Alors je suis d'accord avec votre intervenant qui dit qu'effectivement il y a une question d'incarnation, mais au-delà de l'incarnation, il y a une question de gauche au pluriel. Qu'est-ce que ça veut dire? Arnaud Montebourg et Jean-Luc Mélenchon sont plutôt peut-être sur une gauche assez... assez républicaine. J'oublie pas également votre petit camarade qui officie assez souvent sur Sud Radio de temps en temps, c'est Georges Kouzmanovitch, qu'on n'invite jamais. Georges Kouzmanovitch, c'est vraiment la gauche républicaine qui s'intéresse aux questions sociales.
Chez Valérie Expert.
Qui s'intéresse à ces problématiques-là, qui combat l'Europe ultra-libérale dans laquelle on vit depuis 30 ans. Il est évident que je dirais que Kuzmanovic serait un petit peu, même si d'ailleurs il a été à une époque à la France insoumise, on aurait d'un côté cette vision-là avec Kuzmanovic, Mélenchon et Montebourg, qui pourraient éventuellement travailler ensemble. Par contre, je pense qu'Anne Hidalgo, elle est sur une logique beaucoup trop ultra-libérale.
Alors, Renaud, on va faire réagir.
C'est là où ça risque de pêcher.
Renaud,
parce que le problème, c'est que Anne Hidalgo,
s'il vous plaît,
n'est pas capable
de fédérer,
de récupérer les voix des classes populaires.
Renaud, merci beaucoup de votre témoignage. Avant de faire répondre Rémi Lefebvre, Philippe Bilger voulait ajouter un mot, et comme il dit qu'Arnaud Montebourg est un ami, ça va être intéressant.
Non,
vous êtes d'accord avec Renaud?
Pardon Philippe, mais je voudrais revenir sur le débat un peu particulier tout à l'heure qui a opposé Françoise à Rémi Lefebvre. J'ai l'impression, mais sans doute ai-je tort, n'étant pas un spécialiste de la gauche, que le sentiment qu'elle a disparu vient peut-être du fait que, bizarrement, la conception unitaire de la gauche a disparu, certes, mais qu'elle s'est instillée, elle s'est dissipée dans 1000 principautés qui représentent chacune d'elles un fragment de la gauche telle qu'on la conçoit. J'ai pas l'impression qu'elle a disparu, mais qu'elle s'est multipliée, mais de manière un peu plus réduite.
Renaud, qu'est-ce que vous... Rémi Lefebvre, qu'est-ce que vous voulez répondre à Renaud de Seine-Saint-Denis, à Philippe Bilger?
Écoutez, moi je pense qu'effectivement, il y a plein de convergences. Arnaud Montebourg, qu'est-ce qu'il reproche? Comment il se situe par rapport aux autres candidats? Il reproche à la France insoumise et donc à Jean-Luc Mélenchon son communautarisme et donc le thème de la créolisation, parce que lui-même essaie d'être beaucoup plus régalien et j'allais dire classique et républicain sur la question de l'immigration. Mais pour moi, le positionnement économique de Mélenchon et de Montebourg sont assez proches. Au-delà de ces divergences. Et donc, par ailleurs, là, Jean-Luc Mélenchon a beaucoup écologisé son discours, c'est l'écosocialisme.
Depuis longtemps,
d'une large partie de la France insoumise. Donc moi, honnêtement, je pense qu'il y a effectivement des convergences qui sont possibles. Et je le répète, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a tout plein de petits partis qui ont aussi beaucoup d'élus, parce que c'est ça aussi qu'il faut voir, hein. Il y a une logique organisationnelle. Ces partis veulent avoir des candidats aux élections législatives, parce que derrière les élections législatives, il y a la dotation publique. Et il faut bien voir que tous ces partis ne jouent pas la gagne. C'est-à-dire qu'ils enjambent le scrutin, ils sont déjà dans le scrutin d'après. À LFI, ce qui se joue, c'est notamment la succession de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, il y a des cas d'LFI qui pensent que c'est perdu.
Bien sûr.
Les forces de gauche elles-mêmes
bien
qui
sûr.
Sont pessimistes.
Oui, mais c'est très classique, c'est la vie des partis. Donc moi je vois pas du tout. Ça, c'est pas un fait politique. Le fait politique, c'est l'incarnation. Ça va être qui va incarner. Pour le moment, est-ce que Mélenchon est capable ou pas d'incarner? Parce que c'est le seul aujourd'hui qui a la seule dynamique, c'est lui. Voilà. Point. C'est pas Jadot qui n'arrive pas à se défaire, il est empêtré dans ses contradictions. Ce soir, la fois la plus importante, Anne Hidalgo vient de s'inviter au journal de 20h de TF1. Ça vient de tomber en urgent à l'AFP. On va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est pour un retrait ou pas? Je n'en sais rien. En tout cas, on me dit, moi, que Montebourg, en aucun cas, et je rejoins Rémi Lefebvre, n'annoncera son retrait. Pas du tout. Il doit s'exprimer dans quelques temps. Il n'en est pas là. Et Anne Hidalgo vient d'annoncer sa participation exceptionnelle au journal de 20h. On va suivre
ça de très près. Merci beaucoup Rémi Lefebvre, politologue et professeur des universités. Verdict sur Twitter. Montebourg appelle un candidat commun de la gauche. Est-ce réaliste? Vous êtes 80,5% à dire non. La chronique présidentielle de Philippe Rossi, ça vous dirait les vraies voix?
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degoy, Christophe Madrol, et c'est l'heure de la chronique présidentielle de Philippe Rossi. Et mon cher Philippe, les médias sont en boucle depuis hier sur ce sondage qui donne Macron perdant en 2022.
Eh oui, encore un nouveau sondage qui fait parler les Français à un instant T sur un panel de Français bien précis. Donc il y a les sur-de-soi, les indécis, les très très indécis, les blagueurs, les menteurs, les usurpateurs d'identité. Bref, un sondage encore une fois d'une grande précision. Celui d'hier est signé Elab et il fait peur, la Macronie tremble. Eh oui, Pour la première fois, un sondage donne le chef de l'État battu au second tour, battu par ce cocktail, deux tiers Merkel, un tiers Thatcher, j'ai nommé...
J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie.
Valérie Pécresse qui battrait donc Emmanuel Macron, 52 à 48, mais bon, il faut quand même relativiser. D'abord, il y a un effet Pécresse, congrès LR, la nouveauté, tout ça, tout ça. Et puis, notez aussi que le chef de l'État ne s'est pas encore déclaré candidat, ça compte aussi. Ah, attendez, un conseiller de l'Élysée qui veut rester anonyme me rappelle que Macron est entré en campagne depuis plusieurs semaines. C'est vrai. Et d'ailleurs, hier, Macron s'est changé. Il a enlevé son costume de président pour enfiler ses habits de candidat direction l'Allier. Depuis hier, Emmanuel Macron est au contact des Français.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Vous allez bien ?
Très bien, merci.
Ça va ?
Bonjour, votez pour moi. Ah non, ça, il ne le dit pas encore. Mais il est bien en campagne, Emmanuel Macron. Est-ce que Pécresse est un vrai danger, Françoise de Goix, pour Emmanuel Macron ? Ils ont peur ou pas ?
Je pense qu'ils ont vraiment très peur et de toute façon, c'est la droite qui a la clé de cette présidentielle. Moi, ça fait des mois que je l'ai dit sur cette radio. Je pense que si la droite arrive au second tour, elle gagne, que ce soit Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse. Et donc, je pense que l'Élysée est désarçonnée par ce sondage. C'est pas l'alpha et l'oméga, ça n'est qu'un sondage, mais il envoie un signal, c'est que Macron peut être battu. Et là, ça va commencer les lignes de presse. Peut-il être battu? Et vous savez, après, c'est... La force va à la force en politique. Ouais. C'est moche de dire ça, mais c'est comme ça. Donc, je crois.
Est-ce qu'il peut entrer en campagne plus tôt? Ouais,
oui,
c'est possible.
Ouais. Je ne sais pas ce que dit Christophe, mais il ne va pas se laisser subir, Macron.
Non, je partage ce que dit Françoise. Je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que la surprise, ça a été effectivement Valérie Pécresse. Je pense que l'Élysée, tu as raison, Françoise, c'est vraiment la plus mauvaise adversaire pour Emmanuel Macron. En plus, c'est une femme. Et c'est toujours compliqué pour nous, les hommes, de débattre aussi avec des femmes. Excusez-moi de parler de comme ça, mais d'autre part, je pense que est-ce qu'il peut être battu ? J'en sais rien, mais en tout cas, l'entrée en campagne de Valérie Pécresse est quand même à saluer.
Ouais. Non, ce qui est certain, c'est que la gauche n'ira pas sauver Macron, c'est évident, parce que la gauche considérera que c'est la droite contre la droite, et donc ça, c'est là que vous vous rendez compte à quel point c'est très faible. Juste un mot, peut-être, pour dire que les plus anciens disent à l'Élysée, avant Pécresse, il y avait l'ambiance 1980 Giscard d'Estaing. On est en tête des sondages, on a une super cote de popularité, c'est plié, Mitterrand, c'est que dalle. Là, on a basculé dans autre chose.
Et ce sondage Elab inquiète aussi le PS.
Et oui, on en parlait, le score d'Anne Hidalgo est, comment dire, préoccupant, à 3% d'intention de vote. Bon, c'est pas sympa d'avoir mis la BO de Titanic pour parler de la candidate socialiste. Non, on va pas tirer sur une
Titanic
ambulance.
Il y avait plus de 3% de la coque.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. On va pas tirer sur une ambulance. Tiens, à propos d'ambulance, écoutez ce qu'a dit Guy Carlier ce matin au micro de Patrick Roger et Cécile de Ménibus à propos d'Hidalgo.
On n'a pas envie de tirer sur l'ambulance Hidalgo. Ceci dit, si on s'en réfère au dernier sondage, donc il accrédite de 3% d'intention de vote, Anne Hidalgo n'est plus une ambulance. Hein. C'est pas moins une sorte de machine à creuser le sous-sol, une foreuse à vilebrequin qui a traversé les couches supérieures de la croûte terrestre, le granit, le basalte. D'ailleurs, au stade où elle en est de ses fouilles sismiques, on devrait lui coller une caméra afin de voir l'état de la nappe phréatique.
Philippe Bilger, est-ce que Guy Carlier a bien résumé la situation ?
Oui, mais je suis tellement biscornu qu'à force de descendre, je vais finir par avoir de la sympathie pour elle.
Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour Hidalgo. Je pense qu'elle ramasse beaucoup plus, beaucoup trop cher dans ce qu'elle ramasse. C'est épouvantable et éprouvant. J'entendais sur les chaînes de télé, il n'y a pas besoin de jauge pour elle, etc. C'est minable. C'est comme ça. La politique est sévère, elle est rude. J'espère que ce soir, elle ne va pas annoncer dans le 20h de TF1 qu'elle se retire.
Pas de sympathie, Françoise, pour Anne Hidalgo. On
peut-être,
la connaît.
Moi,
c'est
j'ai
pas
beaucoup
quelqu'un de sympathique.
Moi, je la connais, donc je la trouve sympathique.
Ah, ceux qui la côtoient disent qu'elle est sympathique.
C'est vraiment une personnalité que j'aime beaucoup, vraiment.
Ah oui, ça m'inquiète parce que vous dites de moi que je suis fourbe, alors si vous dites qu'elle est sympathique, je suis inquiet.
Non, mais vous, je ne pense pas un mot de ce que je dis, alors que là, Anne Hidalgo, je pense tous les mots que je dis. Elle est très sympathique.
Allez, je vous dis à demain, je vais de ce pas consoler ma petite. Anne Hidalgo, de toute façon, 3%, elle ne pourra pas descendre plus bas.
Ah bah si.
Ah bon.
0,5.
Ah oui.
0.
À demain.
Bah tiens, elle parlait de Giscard, on l'a entendu. Merci beaucoup, Philippe Rossi, pour cette chronique toujours très distrayante. Les vraies voix, 17h57 à 18h30, notre grand débat. Sondage Elab, Emmanuel Macron risque-t-il de ne pas être réélu ? Vous êtes 87,7% à dire oui. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec le président de l'Institut de la Parole, auteur du livre Libre propos d'un inclassable, publié à la Nouvelle Librairie, Philippe Bilger. Françoise Degois, dernière, ultime, ultimissime éditorialiste de gauche sur Sud Radio et LCI.
Ouais,
et
avant le retour gagnant de la gauche, je vous rappelle que selon toutes nos informations, notamment les miennes, Anne Hidalgo ne fait pas un 20h pour annoncer qu'elle se retire, bien au contraire.
Ça, voilà. C'est une info.
Ah, une vraie info de dommage. Françoise Degois.
Oui.
Il est d'une méchanceté, ce Philippe Bilger. Non, mais tu es vraiment un gras.
Et un autre président de l'UCE, l'Union des centristes et écologistes, et vice-président de la région Sud, voilà, Christophe Madrol. Rebonsoir.
Rebonsoir.
Ça vous va, votre première heure s'est bien passée?
Non, mais moi, je l'aime beaucoup, Christophe. Tu sais pourquoi? Parce qu'il me fait penser à Patrick Vignal. C'est vraiment le deuxième genre des goûts comme ça, j'adore.
Patrick Vignal est quelqu'un très sympa.
C'est un très beau plateau parce que François, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et on a eu des combats communs.
C'est vrai.
Et puis Philippe, c'est aussi, tout à l'heure tu m'as parlé de mon côté humaniste, mais je te renvoie là aussi la même chose. Tu es un vrai humaniste aussi et c'est toujours un bon plaisir de pouvoir parler avec
mon
toi.
Mon cher
Philippe.
Christophe, tu as dû me connaître dans un de mes bons jours.
À 18h30. Excellent.
Mais arrête de te flageller comme ça,
non,
Philippe.
Non, mais il adore la flagellation.
Non, il mais ça va pas. Non, mais vous, vous avez une tête à vous faire fouetter aux chandelles, mais pas Philippe Bilger.
Pardon, nos auditeurs.
Pourquoi je dis ça? Ça m'est sorti comme ça.
On va se déconstruire, Françoise. Je me déconstruis à t'écouter. Madame Rousseau, je me déconstruis.
Je n'aime pas que vous fassiez ce genre de... Vous êtes bizarre, vous avez des drôles de sous-entendus avec Philippe Bilger.
Philippe Bilger.
Oui, mais très bien, à quel niveau vous le connaissez?
Mais je le connais très bien.
Très très bien.
Mais ça ne nous regarde pas, comme disait Thierry Roland. À 18h30, notre grand débat, sondage est là, Emmanuel Macron risque-t-il de ne pas être élu? Vous êtes 87,6%
à dire oui. Faut pas confondre l'analyse et les souhaits, hein, parce que là, j'ai l'impression que ça, c'est une question...
Vous êtes en pleine forme, les vraies voix, ça vous dirait un tour de table de Françoise Degois?
Avec plaisir.
Et ben c'est parti.
Les vraies voix Sud Radio.
Et vous êtes une accro de l'alphabet grec. Vous allez nous parler d'Omicron.
Oui, alors Omicron parce que au micro-ondes, etc. Je trouve ça sidérant ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, on va avoir forcément un reflux parce que c'est pas du tout des textes de complotistes. Ce sont les résultats qui arrivent d'Afrique du Sud. Et qu'est-ce qu'on apprend? L'Afrique du Sud, qui a été évidemment le premier pays touché et qui maintenant a du recul sur l'analyse de Omicron. C'est des résultats qui sont en train d'être confirmés également par les Israéliens, qui sont quand même pas des manches en matière de gestion du Covid. Eh bien, qu'apprend-on sur Omicron? Combien y a-t-il eu de morts en Afrique du Sud avec le variant Omicron?
Zéro.
Il n'y a pas eu un seul mort avec le variant Omicron en Afrique du Sud, alors qu'il représente la majorité des contaminations. C'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, 85% des gens qui sont touchés par Omicron développent des formes encore plus asymptomatiques que les gens touchés par Delta. C'est-à-dire qu'on est sur du niveau même pas du début du commencement d'un nez qui coule. Voilà. Et donc, troisième enseignement, évolution épidémiologique. J'ai écouté le professeur Philippe Frogel hier sur LCI et c'était passionnant. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait peut-être que Omicron va nous sauver parce que c'est peut-être la dernière mutation de ce SARS-CoV-2 qui, grâce à Omicron, qui est très contagieux et qui est en train de prendre la place de tous les autres variants, et avec, il est beaucoup moins dur, beaucoup moins létal, beaucoup moins méchant, eh bien, il va transformer tout simplement, peut-être, le SARS-CoV-2 enfin en simple rhume. Et donc, je mets tous ces éléments qui arrivent et je mets la panique qu'on nous met dans la tronche, matin, midi et soir, les bandeaux, les unes depuis un mois,
Omicron,
les spécialistes qui reviennent, la folie générale apocalyptique, et je me dis, mais bon sang, il faut vraiment qu'on garde
reprendre notre sang-froid.
Ah ouais,
Christophe Madrol.
Bravo Françoise, j'ai rien à rajouter, effectivement, moi je suis... Je suis très dubitatif par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Je peux comprendre politiquement qu'on n'a pas envie de se retrouver avec les urgences
normal.
Qui soient saturées.
Normal.
On peut comprendre que notre secteur hospitalier est à la ramasse, mais en parallèle, on n'a pas augmenté les lits et on n'a pas on n'a pas amené les moyens nécessaires. Donc moi, je partage ce que dit Françoise. Je suis pour la liberté. Je suis aussi pour respecter les gestes barrières. même si j'ai fait une bise à Philippe en rentrant dans ce studio ça, et que Françoise nous a insultés en disant vous n'avez pas honte les garçons de vous faire la bise. Oui. Mais en tout cas, je pense qu'il faut faire attention, il faut faire gaffe, mais je partage ce que dit Françoise, il faut voir et je pense qu'Omicron peut-être nous sortir de la crise.
Et pour conclure sur Omicron, je donne la parole à celui qui est l'alpha et l'oméga des vraies voix, Philippe Bilger.
Mais ça, c'est joli parce que c'est vrai.
J'aurais une interrogation à formuler à Françoise notamment. Est-ce qu'au fond, cette angoisse initiale qui est diffusée, est-ce qu'elle relève d'une stratégie ou est-ce que tout simplement, ça n'est pas le comportement un peu naturel d'une humanité qui ne maîtrise pas totalement bien ce qui lui tombe dessus? C'est ce qui m'intéresserait.
Moi, je pense que c'est un peu des deux, mon capitaine, en réalité. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une panique de tous les gouvernants, et je rejoins ce que dit Christophe sur le principe de précaution. Personne ne veut se retrouver dans la situation d'il y a un an et demi. Et puis, je crois qu'il y a une petite rouerie également politique. Pendant qu'on sature avec Omicron, on ne sature pas sur le reste, hein, c'est-à-dire sur le social, sur les étudiants qui font la queue pour aller manger, sur la pauvreté, etc. Donc c'est transformer une contrainte en opportunité politique.
Les vraies voix, 18h14. Les vraies voix, vous connaissez-vous Olaf Scholz?
Bien sûr. Ouais, oui.
C'est le nouveau chancelier allemand.
Ouais. Est-ce que vous avez vu cette publicité d'IKEA?
Non.
Mais elle est absolument magnifique.
Ah ben on la verra tout à l'heure.
Vous l'avez ratée avec IKEA qui utilise un sosie d'Angela Merkel. Et en allemand, elle est dans un fauteuil IKEA. Il y a marqué « Enfin à la maison ». Je trouve ça génial.
On va apprendre qui est Olaf Scholz. Dans quelques instants, on sera en compagnie de Stefan Zeidendorf, directeur adjoint de l'Institut franco-allemand, un think tank allemand, et enseignant à l'IEP de Strasbourg.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Et oui, vous avez reconnu l'hymne allemand. Après 16 années passées avec Angela Merkel au pouvoir, c'est Olaf Scholz qui devient aujourd'hui chancelier. Olaf Scholz, qui est très peu connu des Français et qu'on va essayer de mieux connaître ce soir dans Les Vraies Voix. Nous sommes en compagnie de Stefan Zeidendorf, directeur adjoint du DFI, l'Institut franco-allemand, un think tank allemand et enseignant à l'IEP de Strasbourg. Stefan Zeidendorf, bonsoir ou schöne Abend.
Oui, bonsoir, merci de m'inviter, bonsoir.
Avec plaisir. Alors Olaf Scholz, il est très peu connu des Français, mais est-il très connu des Allemands?
On peut dire les Allemands aussi, ils le découvrent, ils se posent la question, alors que ça fait un petit moment qu'il occupe la scène politique, sur le devant de la scène politique. Il était déjà là sous Gerhard Schröder, vous vous souvenez, le chancelier à la fin des années 90. Il est toujours là, et pourtant, on se pose la question, qui c'est cet homme très discret, un tantinet quand même ennuyeux, peut-être ennuyant. Et il ressemble à cela un peu à sa prédécesseur Angela Merkel, qu'il a essayé de copier pendant la campagne avec succès, visiblement.
Philippe Bilger.
Est-ce que, en parlant de lui, bien sûr, mais en tentant d'appréhender l'histoire allemande, est-ce qu'on peut dire que le socialisme allemand est naturellement social-démocrate et qu'il est caractérisé, quelles que soient les personnalités, par une sorte de pragmatisme qui n'est pas loin de refuser les idéologies, par exemple, que la France adore?
Stefan Zeidendorf.
C'est une question triple.
On va commencer vous embêter. Avec Olaf Scholz, hein,
c'est le plus facile peut-être si on se concentre d'abord sur Scholz et après on peut tirer quelques conclusions. Scholz, effectivement, il a commencé très à gauche du Parti social-démocrate quand il était le chef adjoint de la jeunesse socialiste allemande. Il militait contre le capitalisme, contre les Pershing, vous vous souvenez, les fusées nucléaires qu'on mettait à l'ouest. Il allait même jusqu'à faire des voyages en Allemagne de l'Est pour voir les camarades du Parti communiste là-bas, pour essayer de voir si on pouvait pas s'entendre entre Allemagne de l'Ouest et de l'Est. Évidemment, tout ça, c'est très loin derrière. Il a compris que pour gouverner en Allemagne, un social-démocrate, il faut qu'il trouve les voies nécessaires au centre de l'échiquier politique, comme avant lui Schröder, comme avant lui Helmut Schmidt. Ça n'exclut pas qu'au fond, il a fait une campagne avec des éléments à gauche. On a augmenté, on va augmenter, on a décidé d'augmenter maintenant le SMIC de 25% pour, en une seule fois, ce qui est quand même beaucoup. Hein, si vous montez de 8,50 à 12 euros, ça fait une sacrée avance. Donc, il y a des propositions de gauche qui vont être mises en œuvre, qui sont dans l'accord de coalition. Et si vous regardez sur ça, vous souvenez les questions du SMIC sous François Hollande, on n'est pas si loin.
Françoise de Gouin.
Moi, je suis ravie que vous disiez ça parce que je pense que la gauche allemande enfin se remet du désastre Gerhard Schröder, du désastre pour elle, du désastre idéologique. Et je ferai une comparaison avec la gauche française qui va mettre longtemps à se remettre des lois travail de Manuel Valls et du quinquennat de François Hollande, même si, je le précise, j'ai soutenu François Hollande et j'ai travaillé dans ce gouvernement. Donc, je n'ai pas le gouvernement honteux. Mais je veux dire, pas du tout. J'ai même le gouvernement fier. Je pense que personne n'a fait autant pour les entreprises que François Hollande. Mais je suis ravi que vous émettiez cette nuance. Olaf Scholz a fait une campagne très à gauche par rapport à ce qu'a pu être Schröder. Il a retrouvé une partie de la gauche allemande avec le SMIC, bien sûr, puisqu'on rappelle que le SMIC, c'est...
Il a fait la campagne à gauche. Hein. Juste après qu'il faut voir.
J'ai compris, oui, mais Schröder, on sait comment il a gouverné. Je pense que lui, on est dans une période différente. Les lois travail, c'est déjà fait, malheureusement, par Schröder. Vous savez, il a été un peu la honte de la gauche européenne, hein, Schröder. Enfin, je me souviens, moi, de Jospin, comment il en parlait, comment Jospin parlait de Tony Blair, etc. Donc je crois quand même que Olaf Scholz, je parlais de l'ISF également, je pense qu'il a rétabli quelque chose de beaucoup plus rose, si vous voulez, que ses prédécesseurs. Moi j'ai bien connu Martin Schulz, j'ai bien eu l'occasion d'en parler souvent avec lui. Il y avait un écrasement qui était lié quand même évidemment à la déflagration de la gouvernance de Schröder.
Stéphane Seidendorf et ensuite Christophe Madrol.
Oui, je pense là sur le coup, c'était surtout le départ annoncé de Angela Merkel, qui avait annoncé qu'elle n'allait pas se représenter. C'est d'ailleurs une nouveauté, hein. C'est peut-être la différence quand c'est une femme hein, aux affaires, qui sait quand c'est assez, qui sait dire voilà, ça suffit, je ne me représente pas. Ça n'a jamais existé en Allemagne en politique. Ensuite, il a en quelque sorte vraiment copié Angela Merkel avec ce calme présidentiel un peu au-dessus de la mêlée jusqu'à reprendre ses gestes favoris, vous savez, le losange devant le ventre, la pose concentrée. Et là, on lui avait dit quand même, ne fais pas trop, ça pourrait être utilisé contre toi. Mais somme toute, l'Allemagne retrouve une sorte d'Angela Merkel masculin. Il a dit, je vais être chancelière. Pas chancelier, mais chancelière.
Bundeskanzlerin.
C'est très loin. Et ça rationnait les Allemands en quelque sorte. Je crois pas qu'il va renier les réformes de Schröder, puisque lui-même, il a été aux affaires.
Christophe Madrol.
Je trouve très dur avec Schröder, parce que
Christophe
Madrol. Joschka Fischer, qui était quand même le ministre des Affaires étrangères vert, proche du code de Cohn-Bendit, l'Allemagne, tu connais bien Joschka, parce qu'on a eu à travailler avec lui, avec Martin Schulz et toute l'équipe au Parlement européen. Là où Olaf Scholz a réussi sa campagne, c'est qu'il a réussi à faire aussi une clarification des forces de gauche vis-à-vis de l'Allemagne. Parce que l'extrême gauche allemande existe, comme il existe une extrême droite.
Bien sûr.
Mais la main tendue qu'il a fait aux Verts, réformistes, sympathiques, non pas les Verts, plus gauchistes, et de l'autre côté aux libéraux, fait qu'aujourd'hui, le gouvernement... Tu vois ce que je veux dire? C'est que l'assemblée que propose aujourd'hui l'Allemagne...
Je suis dur avec Gerhard Schröder.
Tu parlais de Mélenchon.
Non, mais c'est Oscar Lafontaine, Mélenchon.
On est d'accord. Mais je préférais que la gauche se reconstruise sur le modèle allemand aujourd'hui qu'il se reconstruise sur le modèle de Mélenchon.
Alors, Stéphane Seidendorf, s'il vous plaît, Stéphane Seidendorf pour répondre au vice-chancelier de la région sud qui est Christophe Madrol.
Voilà. Je crois, Scholz, il a très bien vu qu'il y avait un coup à jouer au centre. L'attente, notamment aussi de son parti, c'était effectivement, est-ce qu'on ne peut pas faire une coalition rouge-rouge-vert, donc avec l'extrême-gauche, avec les sociaux-démocrates et les Verts. Et ça aurait été ça le vrai changement. Mais Scholz, il a très bien vu que l'Allemagne, avec, vous savez, cette démographie vieillissante, avec un certain conservatisme structurel, n'était pas chaud pour avoir un tel changement radical. Et donc, du coup, ils font ce truc qui, en somme, est très révolutionnaire pour qui connaît l'Allemagne.
Bien sûr, première fois,
trois partis au gouvernement et vous alliez les Verts et les libéraux démocrates. Le libéralisme un peu libéral-libertaire, on va dire, des Verts, et le néolibéralisme débridé de la droite, c'est un peu Giscard d'Estaing président avec Cohn-Bendit Premier ministre, imaginez ça.
Stéphane Seidendorf, je dois vous poser
donc
une question.
La ligne d'Emmanuel Macron, alors.
C'est mais Dany, ça, c'est parce Dany qu'on a les macronistes, parce qu'ils sont sortis. Mais c'est attendez, fini bientôt le macronisme, il va falloir vous
mais
y
non,
faire,
contraire,
les gars.
En Allemagne, ils font du macronisme, François. Stéphane Seidendorf, je vais vous poser une question qui me paraît importante. Les secrétaires d'État qui ont été placés à l'économie aux affaires étrangères sont... connaissent très bien les dossiers français et sont souvent parfaitement bilingues, paraît-il. Est-ce qu'il est francophile, Olaf Scholz ?
Il a dit son premier voyage sera pour la France et c'est pas seulement rationnel, mais c'est une affaire d'émotion. Et ça, quand Scholz, il parle des émotions, on peut compter sur les doigts d'une main. C'est pas souvent. Donc, voilà, émotion. C'est vrai qu'il est entouré, ça, on peut dire aussi, d'une nouvelle génération. Donc, la génération Cohn-Bendit, Joschka Fischer, Schröder et tout ça, c'est vraiment derrière. L'Allemagne, en quelque sorte, elle s'est pas renouvelée comme la France sous Macron. Hein. Sous Macron, vous pouvez être pour ou contre, mais il y a une nouvelle génération qui est venue
ah oui
au pouvoir.
Ah bon? Et ah oui, merci. Mais qui va repartir ah, aussi vite.
Et là, on aura une secrétaire d'État aux affaires européennes qui sera plus jeune que Clément Beaune.
Ah oui, alors, effectivement.
Ah, ça c'est bien. Ça, c'est
là,
bien.
C'est vraiment là, très jeune. Oui.
Mais c'est maternel, parce que Clément Beaune n'est pas très vieux quand même. Pour
il a 27 ans ou merci, il a 30 c'est ça, ans.
Merci beaucoup Stéphane Seidendorf, directeur adjoint du DFI, l'Institut franco-allemand, un think tank allemand et enseignant à l'IEP de Strasbourg. Et si bravo pour votre français, parce que vous parlez un français absolument remarquable.
Mais méfions-nous quand même des gens qui sont francophones. Je vous rappelle qu'Anthony Blixen est super francophone et que est arrivé l'Australie et le contrat des sous-marins. Soyons raisonnables avec les émotions allemandes.
Merci Stéphane Seidendorf. De suite, notre grand débat. Sondage LAB. Emmanuel Macron risque-t-il de ne pas être réélu? Vous êtes 88% à dire oui. On vous attend au 0826-300-300 et sur les réseaux sociaux.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Non mais moi je suis pas comme vous.
Et pourquoi ?
C'est-à-dire que j'aime le foot de façon sociologique.
Oui, mais vous on en parlait vrais, pendant la pause.
Vous êtes des vrais techniciens, vous. Moi, non, je suis pas capable. Mais ça fait 4-3-3-2.
Je vous ferai des cours de rattrapage.
Non mais j'ai bien compris.
Mais là on va passer au score
du sondage. Non mais parce que le foot et la politique c'est pareil.
C'est un peu pareil,
tu
c'est
vois
vrai.
Ce que je veux dire, c'est le challenger, l'outsider qu'on attendait pas, paf, en finale de la Ligue des Champions.
On va voir justement, s'il vous plaît, les vrais
points communs entre Macron, Hollande, Chirac, Sarkozy, c'est l'amour du foot.
Ah, c'est, vrai. C'est vrai. C'est vrai que t'as raison. T'as
alors justement,
c'est vrai. Alors, vrai amour,
tu les mets, s'il vous plaît, pour parler foot.
Les vraies voix. S'il vous plaît, le dernier sondage est là, bah fait l'effet d'une bombe. Pour la première fois, Emmanuel Macron serait battu au second tour par Valérie Pécresse, qui l'emporterait avec 52% des voix face au président sortant. Un sondage qui renverse la table, puisque depuis des mois, la réélection d'Emmanuel Macron était annoncée comme inéluctable par les mêmes instituts de sondage, d'où notre grand débat sondage et lab. Emmanuel Macron risque-t-il de ne pas être élu ? Et vous êtes 88% à dire oui sur Twitter. Avec nous, une vraie voix qu'on connaît bien sur Sud Radio, Marie-Christine Verdier-Joucla, députée La République En Marche du Tarn. C'est juste à côté de la ville de Pierre Groscola qu'on salue, qui est à Revel. C'est à la limite du Tarn et de la Haute-Garonne. Bonsoir Marie-Christine Verdier-Joucla.
Non, on est contente de la voir, Marie-Christine.
Avez-vous...
Ça faisait trop longtemps.
Alors, on sait pas, on va pas parler de football avec vous,
non, mais ça faisait trop longtemps qu'on l'a eu.
C'est vrai. Ben, voilà. Avez-vous
avec
des...
moi, il faut parler rugby, il faut pas parler.
Ah ben, moi aussi, mais moi, avec moi
oui,
aussi,
mais
je suis
là,
de
on
lourde.
On va parler
alors,
politique. Et alors, avez-vous on parle... des sueurs froides depuis hier soir, Marie-Christine Verdier-Joucla?
Mais pas du tout, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que, on n'est pas en campagne. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas. Mais
non, justement, on ne l'a pas remarqué.
N'a pas annoncé.
Attendez, il fait quoi dans le chair, alors ?
N'a pas annoncé sa candidature. Il continue à travailler comme il travaille depuis le début du mandat et à être sur le terrain. Nous, il nous a demandé de travailler jusqu'au bout et nous avons encore des textes de loi que nous examinons. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que les sondages, on sait aussi que ça peut être des sondages qui reflètent une vérité ou pas. Et la meilleure preuve, c'est que, si je me rappelle bien, Fillon ou Hamon, suite après les primaires, avaient été aussi propulsés en tête des sondages. Et je vous rappellerai qu'en 2017, à la même époque, Macron, je crois qu'il était quatrième, cinquième. Donc aujourd'hui, ce n'est pas les sondages qui font les élections, heureusement. Nous, on continue de travailler. Aujourd'hui, on a un candidat LR qui a été désigné. C'est très bien. Nous allons attendre maintenant son programme. Nous allons, nous, travailler sur notre programme et puis nous parlerons et nous débattrons sur un projet et sur un programme. Mais je crois qu'aujourd'hui, les Français, même eux, quand moi je suis sur le terrain et que je vais à leur rencontre, ne sont pas encore en campagne non plus.
Alors, il y a le vice-président de la région Sud qui veut vous poser une question et échanger avec vous, Christophe Madrol.
Attention, oui,
Madame la députée, je vous sens bien enthousiasme quand même. On peut être d'accord, puisqu'en parlant avec de nombreux de nos amis de La République En Marche, la sortie de Valérie Pécresse, championne des LR, c'est quand même une surprise, premier point. Deuxième point qui m'interroge, même si vous avez raison sur les sondages, le sondage ne fait pas une élection, surtout à 4 mois. Effectivement, Emmanuel Macron n'est pas rentré en campagne, même si il a pris quand même les habits de candidat aujourd'hui dans le Cher, et il retourne et il est très bon dans cet exercice-là. La question qui m'anime aujourd'hui, c'est est-ce que vous pensez, parce que La République En Marche, avec Horizon, Édouard Philippe, avec François Bayrou, est quand même, pour de nombreux observateurs politiques, un parti de centre-droit qui peut avoir cause commune avec Valérie Pécresse. Où on en est le discours de gauche? Et où est la deuxième jambe portée par La République En Marche? Où est la deuxième jambe qui pourra soutenir Emmanuel Macron?
Marie-Christine Lardier-Joucla. Là.
La deuxième jambe, elle s'appelle Territoire de Progrès, avec Olivier Dussopt, avec Jean-Luc Le Drian, avec Emmanuel Wargon, et nous avons bien notre seconde jambe, et nous l'avons eue depuis le début. Après, je suis désolée, mais Valérie Pécresse, aujourd'hui, son pilier, c'est Éric Ciotti. Quand vous avez un Éric Ciotti qui explique par A plus B qu'il préférera voter Zemmour que voter Emmanuel Macron, j'attends d'avoir la réaction de Valérie Pécresse par rapport à ce sujet-là. Parce que quand elle a quitté les LR, elle l'a quitté parce qu'elle trouvait justement que la droite se droitisait trop, qu'elle était trop à droite. Et aujourd'hui, elle revient et elle dit que son homme, son pilier, ça va être Éric Ciotti. Donc moi, je m'interroge aussi par rapport à sa ligne. Quelle est la ligne vraiment qu'elle va avoir ? Aujourd'hui, si elle veut effectivement être avec Éric Ciotti et s'il va le former un seul ensemble au niveau des Républicains, ça veut dire qu'ils vont rester ce qu'ils sont depuis un petit moment, c'est-à-dire une droite qui est plutôt droite-droite. Et nous n'avons jamais été une droite qui a été droite-droite. Nous sommes un rassemblement, nous sommes au-delà des clivages, nous sommes dans le dépassement et nous prenons avec nous tous ceux qui ont envie de construire un vrai projet. Pour qui ? Pas pour nous. Pour les Françaises et les Français. Et cette ligne-là, on n'a jamais bougé d'un iota. Et on a toujours eu les deux jambes. Et toutes les lois que nous avons faites, c'était les deux jambes libérées, protégées. Avec le centre, bien sûr, au milieu.
Philippe Bilger.
Marie-Christine, je vous adore, et notamment à chaque fois que je vous rencontre à Sud Radio, mais quand vous avez le courage de dire qu'Emmanuel Macron n'est pas en campagne, je pense que là, vous m'en avez, pardon vulgairement, bouché un coin. Mais plus sérieusement, à propos de Valérie Pécresse, je vous rejoins, on aurait tort, même pour ceux qui ne souhaitent pas la réélection d'Emmanuel Macron, de tirer des conclusions trop rapides des trois sondages dont le dernier, Philippe l'a rappelé, verrait la victoire de Valérie Pécresse contre le président. Il n'empêche tout de même que, pardon de vous choquer Marie-Christine, qu'il y a un petit peu d'espoir qui naît dans l'espace démocratique, parce que on a l'impression de pouvoir sortir du duo implacable qu'on nous a installé depuis des années et souhaité par le président entre Marine Le Pen et lui-même. Et donc, pardonnez-moi, je vois dans ces sondages et dans le fait que Valérie Pécresse va tenir un parfait équilibre, quelque chose qui relève un peu d'une forme d'espérance, même si je ne précipite pas pour ne pas être déçu à la fin.
Marie-Christine Gardijoucla, qui en a bouché un coin à Philippe Bilger, c'est à remarquer.
Oui, mais après, je crois qu'il faut aussi se souvenir, c'est pour ça que je dis qu'on attend vraiment d'avoir la ligne des Républicains, hein, parce que c'est même pas de la droite dont nous parlons du Parti Les Républicains. parce que ça peut apparaître comme un espoir, mais encore une fois, dans certains de ses propos, c'est une droite, et je ne crois pas que ça corresponde à un certain électorat. Absolument. Sinon, c'est pareil.
Droite on vote de gouvernement.
Ou on vote Zemmour. Je veux dire, il n'y a pas photo. Et d'ailleurs, qui c'est qui a baissé dans les sondages avec la montée de Valérie Pécresse? C'est plutôt les extrêmes droites. Ensuite, le bilan de Pécresse, quand même, quand elle était avec Sarkozy, ça a été le contraire de tout ce qu'elle promet aujourd'hui. Elle a supprimé quand même 10 000 postes au niveau des forces de l'ordre, alors qu'aujourd'hui, elle dit qu'elle va s'attaquer à la sécurité. Ben déjà, il fallait peut-être pas supprimer ces 10 000 postes au niveau des policiers et des gendarmes. C'est elle quand même qui a augmenté la TVA, alors qu'aujourd'hui, elle dit qu'elle veut tout faire pour le pouvoir d'achat. Elle a augmenté de 15 milliards d'euros les impôts, alors que nous, on les a baissés de 52 milliards. Et à un moment donné, où on a un taux de chômage qui est le plus bas depuis plus de 10 ans, on se rappelle qu'à la fin du bilan de Sarkozy, quand même, on avait un chômage qui était très élevé. Alors, aujourd'hui, je crois qu'on a une candidate, c'est très bien pour le débat démocratique, c'est très bien, et qu'on n'ait pas que les extrêmes, c'est très bien, et de ça, on peut effectivement se féliciter, mais maintenant, une fois que nous, on sera vraiment candidat et qu'on sera vraiment en campagne, au quitte de vous reboucher un coin une deuxième fois, nous comparerons les projets, nous comparerons réellement les projets. Aujourd'hui, quand je dis qu'on n'est pas en campagne, c'est qu'on est dans l'action de présenter notre bilan. Vous savez, on a fait un super livre qui fait 370 pages, où on a le bilan de 2017 à 2021, où tout le monde peut voir thème par thème toutes les lois que nous avons votées et tout ce que nous avons fait pour la France et les Françaises et les Français.
Marie-Christine, on ne gagne pas une élection avec un bilan.
Françoise
mais
Le Gouin.
Ça, je Lionel Jospin, c'est quelque chose.
Je me souviens du mantra de Lionel Jospin. J'ai un bon bilan. Alors là, c'était
non,
terrible.
Non, mais Marie-Christine, je voudrais. On était en capacité de montrer ce qu'on avait fait.
Bien sûr. Je voulais juste dire que pour moi, ça me paraît la vertu de ce sondage, en tout cas, c'est d'avoir déchiré le ciel. C'est-à-dire que je pense qu'il y a très peu de sondages qui ont été accueillis avec autant d'allégresse à gauche comme à droite sur l'idée que enfin Emmanuel Macron peut être battu. Alors, est-ce que c'était le but recherché? Est-ce que ce sondage est valable? Je n'en sais absolument rien, mais comme tout le monde se goberge avec les sondages sur Zemmour, eh bien, allons-y, que j'ai toujours, contre lesquels je me suis toujours inscrit en faux. Ensuite, ça fait plus d'un an quasiment que je le dis, de toute façon, je pense que l'affiche Le Pen-Macron n'aura pas lieu. Je pense que les Français cherchent absolument un objet politique pour que cette affiche n'ait pas lieu. Ils la pensaient inéluctable, mais ils n'en voulaient pas une très large majorité. Est-ce que Valérie Pécresse est cet objet? Il me semble que ça me paraît être l'objet le plus crédible, dans la mesure où ça ne peut pas être Éric Zemmour, qui est bien trop clivant, qui est une sorte d'épouvantail, pas plus que ça ne peut être Marine Le Pen. Vous savez, le problème d'Emmanuel Macron, en gros, c'est le problème de Valéry Giscard d'Estaing dans les années en 80, avant sa réélection. Très bonne cote de satisfaction. Valéry Giscard d'Estaing, j'ai regardé, parce que je vais faire mon édito là-dessus demain. 55% de cote de satisfaction et 25% au premier tour. Et avec la garantie d'être réélu dans leur esprit, parce qu'il y avait un épouvantail qui s'appelait François Mitterrand, épouvantail avec les communistes. C'était ça, l'époque. Eh bien, à force d'avoir parié sur l'épouvantail et d'avoir, d'une certaine manière, méjugé et considéré que les choses étaient acquises, que je crois, pas vous élu de terrain, mais dans l'esprit d'Emmanuel Macron, c'est le cas. Eh bien, je pense que c'est la droite qui a la clé de ce scrutin. Et je vous fais déjà mon pari que si Valérie Pécresse est au second tour, elle battra Emmanuel Macron, car la gauche n'ira pas sauver Emmanuel Macron de Valérie Pécresse, car il n'y a pas une feuille de papier à cigarette de différence entre eux. La gauche ne verra pas Valérie Pécresse comme un danger pour la République. Et vous verrez que, malheureusement pour vous, votre champion sortira.
Marie-Christine Verdier-Jouclas, et on part au 0826-300-300.
Et on verra bien, de toute façon, encore une fois, c'est les électeurs qui le décideront. Mais juste quand même, par rapport à tout ce que vous avez dit, moi, ce que je sais de certains, c'est que par rapport au sondage, dans le même sondage, vous avez, ça va intéresser la personne du Sud, le président du Sud, dans le Sud-Ouest, Hidalgo aurait 0% d'intention de vote.
C'est pour ça que c'est pas crédible.
Attention, bien sûr. Attention encore effectivement au sondage, je crois qu'il faut, voilà, c'est pas du tout crédible, il faut faire attention. On est très loin malgré tout, même si on a l'impression d'être près encore de l'élection. Et puis encore une fois, vous l'avez dit, on ne gagne pas une élection sur un bilan, mais on gagne une élection sur un projet. Attendons de présenter aussi le projet que nous avons, même si le président en a dévoilé une partie avec France 2030. Mais enfin, de toute façon, aujourd'hui, ça ne sert à rien de s'inquiéter pour X, Y ou Z. Il faut que nous, on continue à bosser de toute façon, c'est ce qu'il faut. Ça, mais quand vrai. Vous dites qu'Emmanuel Macron disait que de toute façon, c'était gagné, je suis désolée, c'est faux, parce qu'on s'est toujours inscrit en faux par rapport à ça. Chaque fois qu'un citoyen à circonscription me disait que c'était fait, je disais mais... une élection n'est jamais faite. Voilà, une élection n'est jamais faite.
Mais vous, les élus, très bien, parce qu'on attend
0826 300 300.
C'est Christophe Madre qui parle. Complètement d'accord. Et en plus, on peut rajouter qu'heureusement qu'Emmanuel Macron était à la manœuvre ces 18 derniers mois vis-à-vis du Covid. Et on a des vrais résultats. Et là-dessus, moi, je pense qu'il y aurait eu quelqu'un d'autre qu'Emmanuel Macron. On serait dans une situation beaucoup plus compliquée.
Mon intervention tout à l'heure,
Marie-Christine, mon intervention, c'est sur l'aile gauche. Tout à l'heure, on parlait hors antenne avec Françoise, et je suis d'accord avec elle. La gauche qui a voté Emmanuel Macron aux dernières présidentielles ne retournera pas voter Emmanuel Macron aujourd'hui. C'est là l'enjeu. Parce que ce n'est pas notre ami Édouard Philippe, ce n'est pas notre ami François Bayrou, ce n'est pas tous ceux qui construisent la maison commune aujourd'hui qui nous fera revenir à un électorat de gauche. Je suis d'accord avec Terre
de Provence. Je pense que ce qui est siphonné à droite est déjà siphonné. C'est
c'est ce que dit Françoise. Vous voyez ce que dit Marie-Christine ? C'est là mon problème aujourd'hui. Alors, si on veut regagner, il faut redonner confiance au peuple de gauche qui a voté pour Emmanuel Macron.
Attendez, Marie-Christine, on part au 0826 300 300. Catherine de Neuilly-sur-Seine attend depuis longtemps. Bonsoir Catherine.
Oui, bonsoir.
Pardon Catherine.
Alors écoutez, c'est pas grave du tout. J'étais très contente de vous entendre tous. Alors moi, au risque de vous surprendre, je pense que Monsieur Macron ne sera pas au premier tour, au deuxième tour.
C'est une possibilité.
Alors, je vais vous dire pourquoi je pense qu'il ne sera pas au deuxième tour, parce que les centristes qui ont voté pour lui en 2017 ont voté pour lui par défaut. Donc, ces centristes vont rentrer au bercail. Ce qui fait qu'ils vont tous aller chez Mme Pécresse, parce que Mme Pécresse, pour moi, n'est absolument pas vraiment de droite. Elle est centre-droit, elle est du centre-droit comme Emmanuel Macron.
C'est vrai.
Donc ce qui fait qu'on risque fort de se retrouver avec Madame Pécresse et un candidat
et Marine
comme
Le Pen bien sûr.
Ou Zemmour. Mmh. Mais je suis absolument certaine qu'elle va piquer les voix du centre.
Mais écoutez, c'est intéressant, Catherine, très intéressant. Marie-Christine Verdier, je vous claque, qu'est-ce que vous pensez de l'analyse de Catherine ? Là, vous avez des sueurs froides ou pas ?
Mais pas du tout, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, encore une fois, je dis que j'ai pas de sueurs froides, parce que, bon, voilà, enfin, je veux dire, on est à 4 mois des élections. Quand je dis qu'on n'a pas fait campagne, moi, je suis pas encore allée sur le terrain avec mes marcheurs pour faire campagne pour le président de la République. On est allé pour l'instant sur le terrain pour faire le bilan de notre action. Alors après, moi, je veux bien entendre ça. Mais quand on est sur le terrain, ce n'est pas le retour qu'on a non plus. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut faire attention parce qu'on donne une image à Valérie Pécresse comme quoi elle est du centre-droit. Mais c'est faux. Regardez son programme pour l'instant. Regardez les propos qu'elle a tenus. Le fait qu'elle soit encore une fois avec Ciotti, je le répète, ce n'est pas quelqu'un de centre-droit. Et quand Zemmour dit au-dessus de ceux qui ont voté Ciotti qui viennent chez moi, c'est que quand même il ne se trompe pas par rapport à la tendance politique de Ciotti. Si elle veut être avec Ciotti, imaginez qu'elle propose Ciotti comme son bras droit, ce qu'elle a fait. Et à un moment donné, elle va choisir quoi comme ligne ? Donc attention, alors, aujourd'hui, c'est peut-être l'image qu'elle veut donner.
Philippe Bilger veut réagir, mais très court. Pasqua n'était pas le bras droit de
Chirac, simplement, ce sera l'intérieur. Non, mais Ciotti, ça sera le ministère de l'Intérieur,
alors,
c'est évident.
Alors, Philippe Bilger, et vous répondez, Philippe Bilger, très rapidement, et Marie-Christine Verdier-Jouclat, très rapidement, s'il vous plaît. Philippe Bilger, très court.
Tout à l'heure, j'étais presque heureux en apprenant que Valérie Pécresse allait battre Emmanuel Macron. Là, en entendant Catherine, je défaille d'enthousiasme. Mais malheureusement, je n'y crois pas. Alors, je n'imagine pas Emmanuel Macron absent du second tour.
Marie-Christine Verdier-Jouclat, en 20 secondes.
Mais moi non plus, j'imagine pas Emmanuel Macron absent du second tour. Et je voudrais répondre au président du Sud. Excusez-moi, j'ai pas noté votre nom.
Non, c'est le vice-président de Christophe Madrone.
Ah, alors, Christophe, franchement, on a un bilan au niveau du social. le meilleur de tout le quinquennat par rapport à Hollande.
Ah, mais moi, je partage ça.
Mais je veux dire, Christophe,
même en matière d'écologie, on a un bon bilan. Le problème,
c'est qu'on n'arrive pas à communiquer. Vous savez ce que j'aime, la sincérité de Marie-Christine. C'est vraiment un bonheur à chaque fois.
Alors, merci beaucoup, Marie-Christine Verdier-Chouclat, députée LAREM du Tarn. Sondage, Elab, Emmanuel Macron risque-t-il de ne pas être réélu? Vous êtes 88,1% à dire oui. On était dans le Tarn et on va prendre la direction du Tarn-et-Garonne, direction Montauban avec Philippe Rossi.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degoy et Christophe Madrol. Et mon cher Philippe Rossi, c'est un mercredi de colère agricole à Montauban.
Et oui, les agriculteurs ont manifesté aujourd'hui. Ils ont également mené des actions pour, je les cite, défendre leur métier face aux dictats environnementalistes. La FDSEA et les jeunes agriculteurs se sont particulièrement mobilisés ce mercredi. Il y a eu de fortes perturbations sur la route. Les boutiques de Montauban, en tout cas celles du centre-ville, ont baissé leurs rideaux entre midi. De nombreux agriculteurs se sont réunis devant la préfecture du Tarn-et-Garonne. Jean-Baptiste Gibert est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir à vous, monsieur Gibert. Alors, vous êtes président des jeunes agriculteurs du Tarn-et-Garonne. Cette journée de colère s'est-elle bien déroulée, en tout cas comme vous le souhaitiez?
Oui, dans un sens, tout s'est très bien passé. Donc, on a eu nos trois points de blocage aux entrées de Montauban et après un point de convergence qui est la préfecture.
Alors, vous dénoncez les pressions des environnementalistes. On aimerait savoir comment vous, en tout cas, et puis les agriculteurs, les vivent au quotidien, ces pressions. Et concrètement, comment ça se manifeste?
Si vous voulez, en fait, c'est une pression générale qui est subie par l'ensemble de la profession agricole, c'est-à-dire qu'on se sent beaucoup moins entendu par l'État que certaines associations environnementalistes. Et ceci commence à devenir très dérangeant. Donc nous, ça se traduit par quoi? Par des pertes de foncier, donc qui ne sont pas compensées financièrement. Donc c'est des pertes de production et des pertes de profit, voilà.
Vous dénoncez également la mise en place des zones de non-traitement. Là aussi, pas de réponse de la part de l'État?
Non, c'est pas. En fait, on ne dénonce pas la mise en place de zones de non-traitement. Ouais. Nous sommes conscients que certains produits peuvent être dangereux. On sait les appliquer. Il y a des règles. On est prêt à respecter les règles. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. C'est juste que là, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que on avait un commun accord avec l'État sur un travail de plusieurs années, de longue haleine. On a classé les cours d'eau qui devaient impérativement être protégés. Donc là, tout ça, c'est ce qui est fait en ce moment. Sauf que France Nature Environnement a attaqué les cartes sur lesquelles on a travaillé. Et donc, on se retrouve rien que sur le Tarn-et-Garonne avec 1700 km de cours d'eau réels ou pas. Donc, c'est-à-dire même des cunades qui sont dans les champs pour évacuer l'eau vont devoir subir une bande enherbée de 5 mètres de chaque côté. Et ça, c'est inacceptable. C'est de la perte de productivité. C'est impossible. Alors, une perte sèche.
J'ai lu plusieurs témoignages sur les réseaux sociaux. Il y a un agriculteur qui disait, il est jeune, il a 30 ans, il disait « J'ai peur de ne pas pouvoir être agriculteur toute ma vie ». Est-ce que c'est une réalité, ça? Est-ce que beaucoup de jeunes agriculteurs ont le même sentiment?
C'est une réalité parce que à partir d'un moment où une personne, il y a une moyenne de 300 à 500 euros de salaire par mois pour un agriculteur, et au bout d'un moment c'est plus vivable, même si on a la passion, on fait pas ce métier au hasard, c'est forcément une passion. Donc à un moment, si on est démarché aussi pour aller travailler dans des boîtes de transport et autres, donc il y a de la perte d'exploitants agricoles, c'est une réalité.
Oui, je pensais, merci pour ce témoignage, parce que je pensais à ce qui se passe dans ce qu'on appelle le désert français, c'est-à-dire la Creuse, toute la région de Châteauroux, voilà, ce centre où finalement personne ne reprend les exploitations, vous avez des terres en jachère, et moi je ne sais pas comment on peut régler vraiment ce problème du revenu des agriculteurs. Il faut vraiment que ça soit une priorité qui dépasse l'électoralisme pur. On sait très bien qu'en termes électoraux, vous n'êtes pas très nombreux, mais en terme de fantasmagorie nationale et du roman national, c'est très puissant ce que vous représentez. Mais au-delà, donc, qu'on dépasse cela et qu'on s'attelle vraiment à ce problème-là. C'est insupportable, je pense aux producteurs de lait, notamment aux éleveurs, les petites... Moi, je viens d'un pays où c'est l'agriculture de montagne, vraiment, les Hautes-Pyrénées, eh bien, c'est insupportable. Vous avez toute ma compassion. Moi, je suis une femme de gauche, vraiment, mais je voudrais que la gauche, la droite, on dépasse tout pour arriver à régler ce problème vous concernant. Ça me donne les larmes aux yeux que vous puissiez vivre avec 500 balles par mois. C'est pas possible.
Et les agriculteurs manifestaient donc aujourd'hui à Montauban dans le Tarn-et-Garonne. Merci à vous, Jean-Baptiste Gibert. Vous êtes président des jeunes agriculteurs dans le département. Merci. Merci à vous.
Merci beaucoup à vous, Philippe Rossi. Dans quelques instants, on va parler avec les auditeurs. On va avoir Olivier de Lyon. Lui, il pense que la droite est en échec. On avait un débat sur la gauche, elle est complètement éclatée. Il va en parler avec les vraies voix. Et ensuite, on va parler des sondages. On a Serge de Seine-Saint-Denis qui trouve que les sondages sont trop ciblés. Il a quelques doutes sur les sondages qui a fait monter Valérie Pécresse aussi vite. Restez bien avec nous sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Ils sont restés avec nous, Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio et LCI, et Christophe Madrol, vice-président de la région Sud et président de l'UCE, l'Union des centristes et écologistes. Notre première vraie voix, c'est Olivier de Lyon, bonsoir.
Oui, bonsoir Sud Radio.
Alors au départ, vous vouliez parler de la droite, mais maintenant vous voulez parler du harcèlement dont est victime Tanguy David sur les réseaux sociaux. Alors Tanguy David, c'est un jeune homme, on va le dire, noir, qui est victime de harcèlement et de menaces de mort puisqu'il soutient Éric Zemmour. On va élargir sur la violence de la campagne d'ailleurs. Allez-y, on vous écoute, Olivier de Lyon.
Oui, tout à fait. Alors moi, ce jeune homme qui soutient Zemmour, qui de la France, et moi pareil, je suis pas le sang français, mais j'ai la France qui compte dans mes veines, comme on dit. Mais ce jeune homme, il a reçu presque de 3500 ou 3000 insultes et menaces de mort. Pourquoi ? Parce que sa communauté l'accuse de trahison de sa communauté, en fait. Parce que la communauté, il pense qu'il faut penser avec son épiderme, c'est pas avec son cerveau. Et il y a une chose que je remarque, le SOS racisme, moi je l'appelle SOS N, ils sont absents. Personne ne parle de lui, personne ne dénonce ce racisme vis-à-vis de sa communauté, personne ne dit rien. Et c'est un scandale.
Alors
et
on moi, va faire, Olivier, restez avec nous, on va faire réagir les vraies voix. Christophe Madrol, c'est vrai que quand on voit le harcèlement en ligne, je vais élargir, on parle des 3500 menaces de mort reçues par Tanguy David, on pense à Mila également, qui a reçu des centaines de menaces de mort.
C'est pas vrai la même que chose, Philippe.
C'est toujours de la menace de mort sur Internet.
Moi, ce qui m'inquiète, on en parlait hors antenne, c'est la violence du début de cette campagne. Pour être très clair, les propos tenus, je laisserai Françoise se coupler sur les propos tenus par rapport à Emmanuel Macron, sont scandaleux par Éric Zemmour. Donc que ce garçon... qui, à mon avis, n'est pas, s'inscrit pas dans une communauté. Il n'y a pas de communauté noire, comme on est en République.
Il n'y a pas de communauté, il n'y a que des citoyens.
Il n'y a que des citoyens. Donc ce garçon qui souhaite soutenir Éric Zemmour, c'est son choix. C'est son choix politique. Comme il peut y avoir des Juifs qui soutiennent Éric Zemmour ou des Arabes qui soutiennent Madame Hidalgo. Voilà, c'est pas la question, c'est l'engagement politique de citoyens. Ce n'est pas une question communautaire. Notre République est faite de citoyens. Et il faut rester sur ce modèle-là. Sinon, on tombe dans des travers qui ne seront, en termes de laïcité, irrécupérables. Les propos tenus, par contre, par quels que soient les candidats, sur la personnalité des gens, sur le physique des gens, la politique, ce sont des débats d'idées. Ce n'est pas des mots assassins sur le physique ou sur la psychologie ou la sexualité des autres candidats. Ça, il faut toujours refuser de tomber dans cette polémique qui est stérile et dangereuse pour la démocratie.
En clair, Éric Zemmour qui dit, Emmanuel Macron, je cite, « ce type est un adolescent pas fini, voilà, il participe de la violence ». Moi, j'entends très bien ce que dit Tanguy, je compatis vraiment parce que, voilà, je n'aime pas Éric Zemmour, je le combats, il représente tout ce que je déteste en termes idéologiques, mais j'accepte pas qu'on agresse Éric Zemmour, pas plus que je n'accepte qu'on veuille interdire ses mythiques, je m'en fous complètement, il finira aux poubelles de l'histoire, pour moi, c'est écrit déjà. Mais la violence qu'il y a eu dans le meeting, c'est pas simplement les supporters d'Éric Zemmour qui ramassent, les anti-Zemmour ramassent aussi. Je voulais que je vous donne combien de menaces de mort moi j'ai et de saloperies que je reçois.
Mais avec sur les réseaux sociaux, Twitter.
Tous les trolls que je balance parce que je dis du mal
on les dénonce
de Sa Majesté Éric Zemmour. Si vous voulez, c'est général. Moi, j'ai pas envie de cette victimisation qui ne m'intéresse pas. D'ailleurs, il s'est arrêté Éric Zemmour quand on s'est rendu compte que le type supposément qu'il avait agressé, voté Éric Ciotti, en fait, avait l'air, plutôt,
chez LR.
Avait l'air d'être plutôt... Oui, mais regardez comment Valeurs Actuelles a sorti l'information en mettant un prénom musulman à cet homme. En gros, c'était l'arabe de service qui forcément avait agressé Éric Zemmour, ce qui est évidemment faux. Donc, attention à cette folie générale. Moi, je pense que Tanguy David ne doit pas recevoir. J'ai vu sur Twitter, il a tout à fait raison. Il a décidé de porter plainte.
Il a raison.
Et c'est très bien qu'il
porte plainte. Il a 3000 fois raison et il a notre soutien parce que les menaces de mort n'ont pas leur place dans le débat démocratique.
De la même manière que les antifas n'ont pas à être menacés de mort, que les gens d'SOS Racisme, parce qu'ils disent non à Éric Zemmour, n'ont pas à se ramasser des pains dans le visage et on n'a pas à entendre Gérard Larcher qui dit après tout, en gros, ils l'ont bien cherché, ils n'avaient qu'à pas être là. C'est honteux. Ça fait partie de la tradition politique. Il y a toujours des happenings dans les meetings. Voilà. Donc, tout ça est pourri. Mais je finis avec les responsables politiques. Ils ont une responsabilité dans ce qui est en train de se passer. Éric Zemmour génère de la violence extrême. Je suis désolé de vous le dire.
Alors, Olivier, allons plus loin. On va redonner la parole à Olivier aussi. Olivier, est-ce que vous n'avez pas peur, mais vous allez réagir rapidement. Olivier, est-ce que vous n'avez pas peur que cette campagne soit très violente parce qu'elle fait que commencer, hein?
Non, elle sera pas violente. Bon, il y a de la violence, je veux dire, verbale, mais bon, quand je dis par rapport à Françoise, qu'elle dit, bon, elle peut pas avoir des Éric Zemmour et combat. Oui, madame, on est pour combattre les idées.
Je supporte pas qu'on agresse Éric Zemmour. Je trouve ça pas bien.
Voilà. C'est très bien. Je veux pas qu'on agresse ou menace des gens qui se tiennent Éric Zemmour. On est pour, on est contre. Voilà. Bon, voilà. Et après, ça se passe dans les débats d'idées. Voilà. Et sinon, voilà, cette campagne, elle est partie comme elle est partie. Mais bon, tout le monde va se calmer. Et après, bon,
il faut l'espérer.
Ils vont sortir.
Voilà. Merci beaucoup, Olivier de Lyon. Ah, très court.
Très court.
Parce qu'on a un deuxième auditeur, il ne faut pas qu'il ait beaucoup moins de temps.
Oui. Le problème, c'est que le meeting d'Éric Zemmour montre encore l'amateurisme d'Éric Zemmour, comme ce qui s'est passé à Marseille. C'est qu'on sait qu'il y a effectivement un happening. Il peut y avoir dans les salles des contestataires. Mais généralement, dans les meetings, on les contrôle. On ne leur tape pas sur la tête.
Merci beaucoup, Olivier de Lyon. On rejoint Serge de Seine-Saint-Denis. On remercie Olivier encore. Bonsoir, Serge.
Oui, bonsoir.
Vous voulez parler, mais avec plaisir, de vous donner la parole, hein, Sud Radio, parlons vrai. Vous avez avec vous Françoise Degoy et Christophe Madrol, deux de nos vraies voix du jour. Et vous voulez parler des sondages, et vous avez quelques doutes, notamment sur le dernier sondage. Je crois qu'il y en a un qui vient de tomber, c'est ça, Christophe Madrol ?
C'est ça,
on vous écoute, Serge.
Je vous remercie. En fait, moi, je voulais juste apporter un témoignage. C'est qu'hier, j'ai répondu à un sondage qui commençait bien, qui demandait pour qui on pouvait voter, etc. Il y avait tous les noms qui étaient inscrits, donc on pouvait cocher le nom de son choix. Et puis, à un certain moment, on a... Alors, entre Pécresse et Macron, pour qui vous voteriez? Moi, je me suis dit, mais on est déjà avec Pécresse qui caracole peut-être à 10 ou 12 % et on la met en premier, alors qu'il y a Mme Le Pen et M. Zemmour, même si ça dérange certaines personnes autour de votre table, qui sont susceptibles d'être au deuxième tour. Alors ça, c'est la première chose au niveau de ce sondage. Et puis, à un certain moment, dans ce sondage-là, alors je me demande si c'est pas des amateurs, puisqu'on parle d'amateurisme de M. Zemmour, ça me fait un peu sourire, ça. On vous demande, dans ce propre sondage, hein, on vous dit quel est le champion de Formule 1 que vous préférez.
Oui.
Alors, j'ai répondu, je voulais voir jusqu'où ça pouvait aller. Et après, on revient un petit peu en politique, et après, ça s'arrête.
Non, mais ça, alors, c'est pour vérifier que vous n'êtes pas un robot.
C'est pour vérifier que vous n'êtes pas un robot.
Vous avez bien compris.
On ne prend pas les gens pour des idiots. Non, non, madame, je suis désolé. On ne prend pas les gens pour des idiots. Moi, je ne connais rien en Formule 1, en plus. Donc, on aurait pu me sortir Bernard Hinault, que j'aurais dit, tiens, je ne savais pas que tu venais de la Formule 1.
Mais ce n'est pas le problème.
Attendez, on va donner une info. C'est qu'il y a un sondage qui vient de tomber. Christophe Madrol, vous l'avez sous les yeux. Et le sondage qui est tombé ce soir, c'est un OpinionWay, c'est ça ?
Non, c'est un Ipsos.
Ipsos n'a rien à voir avec le sondage
Elab d'hier. Confirme la même chose, qu'est-ce que vous racontez ?
Mais elle ne gagne pas au deuxième tour.
Elle est à 16% et elle est au second tour. Voilà.
Mais il n'y a pas de résultat de second tour. Qu'est-ce qu'il dit exactement,
mais elle est
le sondage ?
Aussi, elle est au second tour, Ipsos, bien sûr.
Non, ils disent que donc Macron 25%, Marine Le Pen et Valérie Pécresse à 16%,
Mélenchon, on peut continuer, 8.
Montebourg, 7. Zemmour à 14 et Pécresse 5. Au second tour.
Voilà, voilà donc... Bon,
donc la dynamique est là, en fait.
Sur les sondages, monsieur...
Ouais. Quand moi, je voudrais dire quelque chose sur, aux amis d'Éric Zemmour, là, qui interviennent, etc. Je ne vous ai pas entendu pester sur les sondages quand votre champion, depuis deux mois, a tapé des scores à 18%, etc. Voilà, c'est un retour au réel. Moi, je m'en fous complètement. Je voulais juste vous expliquer, je suis comme vous. Là-dessus, on va se rejoindre. Je ne suis pas d'accord avec la folie sondagière. Je pense qu'elle abîme la démocratie. Je pense que les sondeurs ne savent plus... sonder le pays réel parce que c'est fait avec des panels sur Internet et que c'est bien moins puissant que ce qui se faisait avant en face à face. Je crois, moi,
je suis... L'IFOP a fait des super sondages à la dernière présidentielle. On a eu tous les bons résultats jusqu'au second tour.
Non, pardon. L'IFOP a fait des sondages...
À la présidentielle, je parle. Au régional, ça a été beaucoup moins bon.
Mais non, mais pas simplement. La présidentielle, c'est en gros, c'est donner l'heure, c'est donner le résultat au moment de l'arrivée de la course ou une minute avant. Il ne faut pas exagérer. Tout le monde s'est planté aussi sur la présidentielle. Je pense qu'on ne sait pas sonder ce pays, voilà. Et je vous rejoins dans votre colère, mais j'aimerais que cette colère soit impartiale. Quand votre champion Éric Zemmour est à 20%, dénoncez les sondages aussi fortement qu'aujourd'hui.
Christophe, moi, je partage. Tout à l'heure, quand je parlais d'amateurisme, c'est par rapport à la sortie d'Éric Zemmour à Marseille, où on a vu ce qui s'est passé et la crise médiatique qu'il y a eu après avec ce doigt d'honneur. Je parlais d'amateurisme comme ça. Sur les sondages, rappelez-vous, en région sud, Mariani... avait
c'était
jusqu'à
du RN, je le rappelle.
Le candidat du Rassemblement National avait 12 points d'avance sur Renaud Muselier. On a battu Mariani de plus de 10 points. Vous voyez, donc les sondages, bon, moi, j'y crois pas. Je pense que c'est une photographie à l'instant T. Je pense que Valérie Pécresse bénéficie effectivement, et Françoise le disait très justement, de l'effet évidemment. Dynamique congrès du Rassemblement. Et la campagne va être longue. Je pense par contre que et là-dessus je partage l'avis de Françoise de Goix, c'est que dans la primaire qui opposait Marine Le Pen et Éric Zemmour, Marine Le Pen a gagné. Et je pense qu'Éric Zemmour a mangé son pain blanc et va diminuer dans les sondages. Et par contre...
C'est le cas encore en l'Ipsos de ce soir.
Je pense que tu as raison. Je pense qu'on a vu la situation et on a vu les scènes qu'on ne retrouvera pas. L'individu, bien sûr. Voilà. Et l'individu n'incarne pas ce que pourrait... Et voilà. Donc les sondages, il faut les prendre comme ils sont. Mais je reviens, quand Éric Zemmour était à 20%, j'aurais aimé aussi entendre les zemmouristes ou les zemmouriens avoir les mêmes propos qui sont tenus aujourd'hui.
Serge, justement, les sondages, on parlait des régionales. Si on voit les sondages des dernières régionales, le RN devait gagner 3 ou 4 régions.
5,
c'était au maxi.
IFOP 5.
Aucune victoire. Est-ce que vous croyez, vous, encore les sondages? Et surtout à 4 mois du premier tour, quand même.
S'il vous plaît, je crois que vos invités se méprennent sur ce que je veux dire. C'est ce qui m'intéresse, moi, au niveau des sondages, c'est les sondages au premier tour. Parce que il y avait une dynamique ce week-end avec Zemmour, Mélenchon, Pécresse. Pourquoi les sondeurs mettent en avant Pécresse?
Parce que Zemmour n'a pas... Parce que c'est pas parce que vous mettez 10 000 personnes dans une salle et que les images sont jolies, mais ça, c'est mon expérience politique, je ne cesse de le dire depuis dimanche, que vous grimpez dans les sondages, dans l'offre politique d'Éric Zemmour et son discours, il n'y avait rien qui puisse attirer des gens, en plus des gens qui sont déjà chez lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il est là, le sujet. Tout le monde a dit « Oh, c'est réussi !» Mais c'est pas... Vous savez, si les gens qui ont mis 10 000 personnes à Villepinte avait dû être président de la République, Chevènement serait président, Benoît Hamon, il a mis 28 000 personnes à Bercy.
Même Cécile Duflot pourrait être présidente
de... Voilà. Moi, j'ai vu Ségolène second tour de la présidentielle, elle a mis 70 000 personnes à Charletti, 70 000, le plus grand meeting bien de sûr. Tous les temps. Ben voilà, elle termine à 47%, elle ne gagne pas. Voilà.
Mais je vous dis, je ne suis pas en train de mettre en porte-à-faux ce que vous dites. Je dis seulement pourquoi le sondeur, il s'en fout, lui, que la salle, elle ait eu 15 000 ou 20 000 ou 10 000. Que le sondeur soit impartial.
Mais il pose la question.
Je vais en rester là. Aujourd'hui, on me propose un sondage où on me met Marine Le Pen contre Monsieur Macron. Et dans les partis dans lesquels les gens se reconnaissent, j'ai cherché partout, hein. J'ai regardé Jean Lassalle, etc. Là, hein. Ah, il manque juste le parti, mais vous allez dire que je fais du parti pris, mais il manque juste le parti de Monsieur Zemmour qu'il a créé dimanche dernier. Il n'y a pas. Alors je dis, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas?
Ah bah, il y a Zemmour. Bah, mais bien
sur
sûr,
le sondage, il doit y avoir quand même Zemmour pour la présidentielle. Il est toujours encore à deux chiffres.
Le parti politique, il dit dans quel parti politique
mais parce qu'il n'est pas encore, mais parce qu'il n'est pas encore créé. Il n'est pas encore déposé.
Christophe Madrolle.
Le temps que le parti d'Éric Zemmour soit reconnu, il y aura un certain temps. Il y a des démarches à faire, etc.
On s'en fout du parti, c'est la personnalité.
En plus, sincèrement, c'est comme La République En Marche. La République En Marche, c'est Emmanuel Macron. Et le parti, je ne sais pas comment il s'appelle, d'Éric Zemmour. Reconquête, c'est Zemmour. Voilà. Il n'y a pas de parti, comme on appelle les partis politiques, avec des fédérations zemmouristes, ou comme, etc. Donc, ne vous prenez pas la tête par rapport à ça. Par rapport au sondage, vous avez raison, c'est un instant T. Mais aujourd'hui, pour les sondeurs, comme pour les politiques que nous sommes, c'est effectivement quelle est la personnalité à droite qui peut battre Emmanuel Macron, la seule qui peut battre Emmanuel Macron, éventuellement, c'est Valérie Pécresse. C'est là-dessus qu'on débat.
Merci beaucoup Serge de Seine-Saint-Denis, merci beaucoup Christophe Madrolle et Françoise Degois.
C'était un vrai plaisir.
Toujours un plaisir de faire les vrais
mots. On pourra revenir, Philippe.
Avec grand plaisir. Maintenant, c'est à vous,
c'est
Philippe Rossi.
Pas sûr qu'on a envie de revenir avec
vous, en fait. Je sais. Avec vous et
DJF Audebert qui va arriver dans quelques minutes, devenir plus utile. Les cadeaux de Noël peuvent-ils devenir plus utiles et plus éthiques? C'est la question qu'on va se poser. Puis surtout, on va vous le prouver avec du beau monde ce soir. Xavier Bernard, qui est le porte-parole de la Grande Récré, qui est avec nous ce soir. Et puis Vincent Néjon, fondateur du site Ici Présence. Et voilà, c'est un site de cadeaux éthiques et responsables. Et en plus, Made in France. À tout de suite pour devenir plus utile avec DJF Audebert, mais dans l'immédiat, je vous propose de rejoindre Stéphane Moller, conseil de famille, les questions de gestion de patrimoine sur Sud Radio. À tout de suite.